le point commun entre Inde, burger, business, démolition de restaurants, restauration de restaurants, buzz, personal branding. On est avec l'homme que l'on nomme. Je te laisse faire l'intro.
Alors, je suis King Maxwell, le Texas Grill, vous me connaissez.
Texas to the Grills.
Et oui, c'est un épisode que je pense que vous allez adorer à plusieurs niveaux parce que Max prend le temps de partager déjà sa genèse, en fait, son parcours avant. Parce que vous allez voir, tout le monde imagine que c'est un quinri. Parce que quand il parle, quand il présente, quand il vend son burger...
Yo Pougon.
Exactement. C'est un gars, il raconte tout son parcours, ses hauts, ses bas. Tu es très transparent avec nous sur les bas et comment tu es arrivé à ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Max nous partage aujourd'hui sa vie, mais tout ce qui s'est passé qui a amené à cette réputation incroyable. Parce que je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs restaurants d'Abidjan, un de mes préférés. Et derrière, Max est un entrepreneur qui est parti aussi de mes préférés maintenant, tout ce qu'il a partagé aujourd'hui.
Un restaurant, c'est 5 restaurants maintenant.
Exactement. Donc la grande question,
pourquoi est-ce que les gens... 7.
Voilà.
Bientôt 7. Dont certains à l'étranger.
Donc pourquoi les gens restaient jusqu'à la fin pour toi, Max? Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais entendu, qu'est-ce qu'ils n'ont jamais vu que tu
as... Ils n'ont jamais entendu la vérité, je pense. Savoir qu'est-ce qu'un vrai entrepreneur et qu'est-ce qu'il faut pour être un vrai entrepreneur. Je pense qu'il doit rester jusqu'à la fin pour savoir.
Voilà. Exactement.
Toute transparence. Abonnez-vous, les amis. Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Ciao.
Ciao.
Shalom.
Salam.
Hello, hello.
What's up? King Maxwell, fais-nous la vraie intro.
Yo, baby, what's up, King Maxwell?
Voilà, le vrai quinri est dans la place.
Ouais.
Le plus quinri des Ivoiriens. Maxwell, ça fait, je pense que depuis l'épisode numéro 1 de ce podcast, qu'on dit dans la liste, Maxwell.
Faut qu'on invite Maxwell.
Oh. Surtout Moulay.
Ah,
tu en parlais depuis plus d'un an. Ouais.
Mais parce que c'est un de mes restos préférés à Abidjan.
Ah ouais, merci beaucoup.
Entrepreneur préféré par transition, du coup.
Et puis, il y a une histoire.
Il y a une histoire aussi derrière. Mais l'idée, c'est peut-être déjà, si tu veux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a peut-être beaucoup de nos auditeurs...
Mais il vient de se présenter.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Qui il est?
Il a dit King Maxwell, what's up?
King Maxwell, what's up, c'est tout.
Alors, je suis Goris Alain Trésor Maxwell. Je suis entrepreneur ivoirien. Je suis chef cuisinier créateur de la marque de restaurant Texas Grill.
Texas Grill.
Nous sommes à 5 restaurants pour le moment.
Amen.
Et je suis aussi dans d'autres domaines.
Mais quel autre domaine?
Il faut nous dire, mon ami, on est là.
On ne laisse pas les 3 petits points. On a le temps.
On est calé, mon ami. Il faut nous expliquer.
Je suis aussi fondateur d'école, d'école primaire maternelle. Je suis dans l'enseignement aussi, voilà.
Ok, combien d'écoles?
Une école pour le moment.
D'accord, super. Hey, okay. Primaire, maternelle, où ça?
En zone industrielle, Yopougon.
Ok, ouais. Nice. Tu as un lien avec Yopougon ou pas du tout?
Oui, quand même. Hein. Je pense que c'est là-bas que j'ai atteint la maturité et c'est là-bas que j'ai connu quand même la vie. Voilà, depuis la seconde. Okay. Jusqu'à la maîtrise avant de partir à l'extérieur. Ouais, donc
pour ceux qui ne connaissent pas Yopougon, comment tu décris Yopougon?
Alors moi je viens d'un tout petit coin qu'on appelle Yopougon Kouet, disons un ghetto.
Je croyais qu'il allait dire aussi Ouassakara.
Ouassakara, j'allais dire, on a que des gars de Ouassakara qui viennent.
Yopougon Kouet, un vrai petit ghetto, mais...
Yopougon Kouet.
Ouais, Kouet.
Ah, vous avez des noms.
Tu sais quand on donne...
Attends, pourquoi Kouet? Là c'est qu'il y a une histoire.
Ah ouais, c'est pas moi.
Mais quand tu dis ghetto, toi-même, ça veut dire quoi?
Tu sais, généralement quand on a le grand nom de place européenne ou américaine, c'est que ça... C'est directement un ghetto qu'on le donne, au fait.
Donc,
tu vois Washington, tu vois Koweït et tout ça.
Et comment tu décris alors un... Enfin, plonge-nous, tu vois, je pense, dans ce que tu appelles un ghetto, tu vois.
Un ghetto, c'est...
En tout cas, la
vie est dure.
Telle que c'était,
L'activité économique est vraiment au ralenti. Il y a peu de chances de s'en sortir, il n'y a pas trop de chances. Voilà. Donc, si tu n'as pas un mindset aussi assez fort, tu risques de sombrer. Voilà.
Et donc, toi, tes amis d'enfance aujourd'hui, tu dirais, ils n'ont pas tous ton parcours, c'est ça, tu es une exception.
On a pas tous le même parcours. Je suis quand même une exception aussi, quand même. Ouais, je suis une exception, mais il y a beaucoup qui en sortent aussi. Il y a beaucoup qui se sont sortis, et voilà.
Ok. Mais c'était, avec le recul, tu dis, c'était vraiment dur ou c'était quand même des belles années?
C'était de très belles années. l'amour vrai, les difficultés qu'on partageait, on s'en sortait tous ensemble, voilà quoi.
Parce que quand t'es enfant, en fait, tu te rends pas forcément compte, oui, en fait, finalement, que t'es dans un environnement
difficile. Non, mais
difficile.
Moi, j'ai pas été un enfant là-bas. Comme j'ai dit, je suis devenu adulte là-bas. Mon père était inspecteur d'enseignement primaire. Okay. Donc, on a beaucoup tourné. On a fait l'intérieur du pays. J'ai commencé depuis l'ouest.
D'accord.
Zouaouyan, Fakobli, Man, Dimbokro. Je sais pas si j'ai fait plusieurs villes quand même avant d'arriver à Abidjan.
Ok. Et t'as affecté, quoi.
Ouais. Une fois qu'on affecte ton père, il trimballe tout le monde en même temps.
Ok. Voilà. Mais les 18 ans, c'était à Yop.
Voilà, à Yopougon, c'est là qu'on a commencé à avoir les yeux ouverts, chercher les femmes et tout.
Les tout problèmes.
Je croyais que tu allais dire l'argent. On est un podcast
non,
sérieux.
C'est les femmes qu'il faut que les gars
cherchent. À partir de quand tu as cherché l'argent alors?
Alors, ouais.
Ah, mais Texas, il a commencé il n'y a pas trop longtemps. Voilà, tu as commencé à.
Non, mais là, tu vas loin.
Au début, ta première entreprise, c'était quoi? Peut-être la première fois que tu as acheté de l'argent, tu as bossé pour quelqu'un?
Est-ce que tu as fait des petits jobs?
Déjà, j'étais en Inde. Je pense que quand je suis sorti du pays, je suis allé en Inde, où j'étais étudiant en informatique.
D'accord.
J'ai fait un bachelor en computer application. Donc, je suis bilingue en même temps.
Donc, tu parles anglais sans problème déjà de là-bas?
Yeah.
J'ai eu peur, je croyais indien.
Tu crois qu'il parlait hindi?
Bilingue, ouais.
Non, du tout. J'aurais bien voulu apprendre, mais bon, c'était très difficile.
C'est dur, ouais.
Ouais, donc ça m'a permis d'être bilingue. Et de là-bas, je faisais partie des étudiants, des noix de cajou, du fer. J'étais en consultance pour certains hommes d'affaires.
D'accord.
Oui, avec des amis, on venait en Côte d'Ivoire, en Afrique. Donc, j'ai bossé en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Kenya. J'ai bossé au Ghana. Oui. Pas bossé en tant que tel là-bas, mais on venait chercher la marchandise pour faire repartir.
Pour vendre ça?
Oui.
Pour vendre où?
Pas pour vendre, mais on faisait les packages pour que les Indiens viennent récupérer. Voilà, donc ils venaient ici, on apportait déjà les noix de cajou, le fer, ils prenaient le fer aussi pour partir. Donc voilà.
Vous faisiez des transports,
étudiants
quoi,
aussi. Ouais.
Transport.
Non, de la logistique, pas le transport. Nous, on apportait la marchandise. Et ils nous disent, bon, on a besoin de noix de cajou.
D'accord.
On vient discuter pour eux. Comme au début, ils ne parlaient pas français.
Négoce,
mais ils ont commencé à venir eux-mêmes sur le terrain.
Ça, c'était en quelle année, ça, du coup, tu dis?
Il y a longtemps, depuis 2008-2009.
Ah, t'étais dans le game depuis?
Ouais. 2008-2009, moi je suis parti en Inde en 2006.
Ok.
Et donc 2008-2009, moi j'ai perdu mes parents, mon père en 2007 quand je suis arrivé.
Aïe.
Et j'ai perdu ma mère en 2008, donc j'ai commencé entrer dans le cherchement, comme on dit en Côte d'Ivoire.
Ah ouais, ça devait être compliqué,
ça,
comment t'as fait?
Parallèle.
Pendant que t'étais en Inde?
Oui, c'était compliqué et ça a été l'une des phases les plus tristes de ma vie parce que j'ai pas vu l'enterrement de mes parents, j'ai pas été là, donc ça m'a beaucoup touché. Et je pense qu'il y a une femme indienne qui a eu à payer mon billet d'avion pour que je vienne en Côte d'Ivoire.
Carrément?
Carrément, parce que donc depuis là, j'ai su que j'étais un survivant et que j'allais pas, parce que moi, ma famille voulait que je reste là-bas, mes frères voulaient que non, reste, finis tes études et tout ça. Mais moi, ce n'est pas sûr que je travaille dans le domaine que j'étudie. Et j'ai vraiment envie de venir voir mes parents et tout ça. Ils ont dit non, finis tes études et tout. Et donc, 2 mois après l'enterrement de ma mère, et puis j'ai croisé une femme indienne qui m'a dit qu'elle cherchait un marché en Afrique et qu'elle voulait avoir des étudiants, elle voulait avoir des noix de cajou et tout ça. J'ai dit ok. Et donc je suis venu, elle a payé mon billet d'avion. C'est là comme ça que je suis revenu en Afrique.
Wow. Et que tu es revenu en Côte d'Ivoire.
Revenu en Côte d'Ivoire, ouais. Et donc, après j'ai commencé à tourner un peu pour elle partout, mais voilà.
Okay. Donc c'était un peu, ouais, c'est comme un ange parce qu'elle t'a permis finalement de venir te recueillir.
Ben ouais.
En même temps sur ce voyage, alors que tes frères poussaient genre concentre-toi sur tes études.
Oui, c'est ça.
Vous, vous êtes combien dans ta famille, du coup, avec tes
frères? Mon père a eu 14 enfants, nous sommes 14 frères.
Wow.
12 garçons, 2 filles.
Ok.
Donc, beaucoup de garçons. Voilà.
Vous avez une grande famille, ouais. Donc, du coup, ouais. Wow. Donc, eux, ils disaient, bon, toi, tu t'es là-bas, ouais, ils voulaient que tu restes et que tu avances, quoi.
Yeah.
Et en fait, donc, ce que tu disais, c'est que c'était ce moment. Ce moment très triste pour toi, ça a été un déclencheur?
Oui, pas vraiment. En fait, j'ai commencé à tourner et j'ai commencé à avoir de l'argent un peu plus facilement quand j'ai commencé à travailler pour les Indiens. Parce que chaque fois que j'étais en Côte d'Ivoire, on me donnait 501 millions par semaine. J'avais l'hôtel, la voiture, voilà, l'intérieur du pays. Et aussi, je faisais des passages télévisés pour faire venir les étudiants dans les différentes écoles.
Okay.
Et tout ça. Donc, c'est nous qui avons commencé à faire partie des étudiants ivoiriens en Inde. Et je fais partie des étudiants camerounais. J'ai commencé à avoir à peu près des bureaux un peu partout pour faire venir des gens. Et en 2010, je ne sais pas pourquoi, mais un jour, j'appelle la dame et je lui dis, moi, je ne veux plus continuer, je veux arrêter. Parce que je suis parti pour être étudiant, j'arrive pas à faire mes diplômes. Je suis toujours en train de voyager.
Comment tu gères les deux?
Je suis toujours en train de voyager, donc j'ai décidé d'arrêter. Et donc quand j'ai décidé d'arrêter, j'avais rien d'autre à faire. Je suis retrouvé à la case départ, Yopougon, Koweït. Et cette fois-ci, sans mes parents. Ah ouais. Donc j'ai commencé à faire des petits boulots. Il y a des petits trucs, je sais pas, il y a un champion qu'on appelle Kombucha. Kombucha, un champion qu'on met dans du thé qui grandit, qu'on vend, je sais pas.
Le kombucha, oui, je vois, kombucha.
J'ai commencé à faire le kombucha, commencé à le vendre.
À vendre du kombucha,
oui. Dans le quartier et tout, je m'exerçais à vendre, en fait. Donc je pense que c'est là que j'ai eu à peu près des paroles pour pouvoir convaincre des gens. Je leur disais, écoutez, on vend ça, ça soigne telle maladie, ça va ici, ça donne de la libido et tout ça.
Voilà.
Quand tu donnes tous tes arguments que ça passe pas, donc tu tombes dans la libido, bon, ça donne la libido, dis, ok, d'accord, on prend. Donc, c'est le meilleur moyen de vendre en Côte d'Ivoire, je pense. Et puis après, je suis entré dans quelques petits boulots comme ça, et ça n'allait pas. J'ai commencé à sombrer dans l'alcool et la cigarette et tout ça. Je pense que je commençais à m'appéter les plombs, à devenir un peu fou.
Wow.
Et je pense que ma tante, une de mes tantes maternelles, qui a su que j'étais en Côte d'Ivoire, elle m'a dit, mais écoute, elle m'a envoyé dans un coin de prière. Je pense que c'est de là que le déclic, j'ai commencé à reprendre goût à la vie. Donc de là, j'ai arrêté carrément de fumer. Je suis revenu à Abidjan, j'ai commencé à...
J'étais parti,
j'étais en dehors, c'était à l'intérieur, vers Daokro.
Ah, où ça?
Daokro. Dans une ville, dans une église où on ne porte pas les chaussures, je ne sais pas, christianisme céleste. Voilà.
D'accord.
Donc, ils ont prié pour moi, je suis resté, j'ai fait des jeûnes et tout ça. Et après, je suis revenu sur Abidjan. Et de là, j'ai dit, bon, écoute, je pense que j'ai des petits frères qui sont là. Mes grands frères, c'est vrai qu'on ne s'entendait pas trop. Mais j'ai mes petits frères qui sont là et pour eux, je ne dois pas baisser les bras. Il faut que je me reprenne en main, voilà, parce que
c'est pas facile.
L'alcool et tout ça, ça va pas m'emmener quelque part. Il y a eu la guerre, nous sommes entrés au village, nous sommes revenus sur Abidjan.
Ah ouais, t'as eu la guerre au milieu de tout ça.
Et là, je me suis dit, bon, écoute, il faut que je commence à faire quelque chose.
Mais c'est ouf parce que t'es passé de quelqu'un qui avait fait de l'argent.
Ouais.
Enfin, t'as fait de l'argent jeune, vite au final.
Oui.
Et après, t'as comme si t'avais tout perdu, en fait.
C'est comme si j'avais tout perdu. J'avais tout perdu. Je pense que le monsieur même qui priait a dit que si c'était moi, tu n'allais jamais revenir au pays. Mais après, avec du temps, je pense qu'il s'était trompé.
Ouais.
Parce que ce que je faisais, je fais quelque chose que j'aime. Quand je n'aime pas, j'abandonne. Et donc, je pense que j'ai fait le bon choix d'être resté au pays. J'ai fait le bon choix
d'avoir arrêté avec la dame.
D'avoir arrêté avec la dame parce que ça, c'est ça qu'on dit, poursuivre l'ombre et laisser la proie. Je sais pas comment on dit ça en bon français.
Ah ouais.
Voilà, courir derrière l'ombre au lieu que la proie est là. Donc je courais derrière de l'argent qui finissait rapidement pour moi, sans passion et tout. Et sans avenir parce que j'étais obligé de travailler avec des Indiens à chaque fois. Et après, eux-mêmes, ils connaissaient déjà le circuit. Hein, donc ils ne passaient plus par toi.
Ah, tu commençais à sentir aussi qu'ils faisaient sans toi.
Ils viennent directement au pays. Ils viennent commencer à chercher eux-mêmes leurs produits pour repartir. Donc... Je me suis dit que ça va pas continuer comme ça pendant longtemps. Donc,
ouais, donc tu as senti que ça allait pas durer longtemps. Ouais. Mais ouais, quand même, c'est pas donné parce que je connais beaucoup de gens qui, quand tu gagnes autant aussi jeune et que tu as une situation comme toi, c'est-à-dire qu'au final, tu avais quand même personne sur qui d'autre compter potentiellement. Mmh, ouais. Les gens auraient pas laissé, hein.
Bah ouais, je sais pas qu'est-ce qui a, créé et j'ai arrêté tout d'un coup sans savoir ce que j'allais faire ensuite.
Wow.
Et là, ça a été la descente aux enfers.
Ouais, parce que quand t'arrêtes, là on parle de l'argent, mais t'as pas pu faire ton diplôme.
Non, j'ai pas fait mon diplôme.
T'as plus tes parents.
J'ai plus mes parents.
Donc tu te dis je vais aller à Koweït.
Après, je vois pas quelle solution qui a me fait sortir de Koweït. Je ne voyais vraiment pas.
Donc, wow. tu tentes un peu de
jouer au gigolo, mais,
ouais.
Mais bon, je pense que Dieu a fait grâce. Et puis, un jour, j'ai fait un burger à la maison.
Ah, chez toi?
Oui, à la maison. C'est comme ça que ça a commencé. Et tout le monde a aimé.
T'as fait un burger à Koweït déjà?
Non, un burger à la Riviera. Okay. Il fallait que quand je suis revenu, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je me suis retrouvé au Ghana. Encore dans un autre coin de prière, pas de travail. Hein.
Ah ouais?
Je me suis retrouvé dans un autre camp de prière.
Au Ghana.
Parce que cette période-là, je commençais à rechercher Dieu. J'avais peut-être donné pasteur, je ne sais pas, mais. Mais j'ai commencé à rechercher Dieu. Puis après, quand je suis revenu, je me suis mis en couple avec une demoiselle. Mm-hmm. Et nous sommes restés ensemble. Okay. Et donc, j'ai fait un burger à la maison. Et tout le monde a aimé.
Donc, tu as cuisiné, mais qu'est-ce qui t'a amené à cuisiner?
Peut-être comme je mangeais des burgers quand j'étais à l'extérieur du pays en Inde.
Ouais.
Et donc, quand je suis revenu, je mangeais dans des coins, je recherchais, mais ça avait des goûts un peu particuliers. Ce n'était pas la même chose qu'à l'extérieur.
OK.
Ouais. Donc, j'ai dit, OK, un jour, je vais faire des burgers à la maison. Et donc, je l'ai fait.
Mais c'est intéressant parce que, tu sais, la plupart des gens souvent se posent cette question, comment des hommes rentrent dans la cuisine? C'est une question que je pose.
C'est à la recherche, je pense que la cuisine rapporte des souvenirs.
Ouais.
Et donc, c'était pour avoir ce souvenir.
Toi, ça te rappelle le souvenir donc, de quand tu te fais.
Voilà, donc je l'ai fait.
Mais est-ce qu'en Inde, tu faisais à manger?
En Inde, non. Je veux dire que je pouvais peut-être rentrer avec ma mère en cuisine.
OK.
Avec ma mère. Et, j'aimais beaucoup les steaks et la purée qu'elle faisait. Mm. Et donc, c'est tout ça. Quand je suis arrivé en Inde, généralement, on n'avait que des burgers au poulet parce que là-bas,
oui, c'est le totem. Exactement.
Et il y a un jour, il y a un coin qui a ouvert, un restaurant qui faisait en cachette des burgers.
En cachette.
Des cachettes, il faut le dire.
J'adore, c'est ça la vérité.
des burgers au bœuf.
Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sous tous les formats, mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Kaï et à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mêmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en ouchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti du quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congossa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kaï et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Mmh.
Et donc ça, ça nous a tellement plu à nous les Africains. Et,
vous allez souvent là-bas.
Quand je suis revenu et que je mangeais généralement dans un restaurant libanais et ça avait un goût oriental. Ça avait pas le goût trop d'épices. Voilà, donc je l'ai fait moi-même à la maison avec du sel, poivre et tout ça. Il s'est passé. Et quand la même que les gens ont adoré, je me suis dit que je venais de trouver ce que je voulais vraiment faire dans la vie.
Sérieux?
Voilà, oui. Parce que j'ai travaillé avec des Indiens, j'ai touché de l'argent, mais le waouh, l'expression du visage, la reconnaissance n'a jamais été pareil, en fait. Et moi, comme je suis quelqu'un de passionné, et quand j'ai vu qu'ils ont accroché, ils ont apprécié, c'était la première fois que je faisais quelque chose qui avait de la valeur.
Et là, t'as quel âge?
Là, je suis revenu, je suis autour, disons, en 2013-2014. Je suis déjà à 30 ans, hein, parce que j'ai 40 ans. Ouais. Et donc, je suis déjà à 30 ans. Et donc
pourquoi je te demande ça? Parce que dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, ce qui me marque, tu vois, c'est l'aspect mental. Toi, nous, on parle beaucoup d'épanouissement, spiritualité. Et c'est vrai que, tu vois, c'est un peu tabou, tout ce qui est dépression, le fait que tu es passé par la prière. Et puis surtout que tu aies choisi ta direction en fonction de ce qui te fait vibrer. Ouais. J'ai l'impression que c'est un truc que tu as toujours eu.
Je pense que la cuisine, c'est quelque chose que j'ai toujours eu facilement, je ne sais pas. Mm-hmm.
Mais cet aspect spirituel de chercher en fait quelque chose qui te correspond.
En fait, je n'avais jamais eu vraiment une relation aussi intime avec Dieu. Mm. Ouais. Dire que je vais me lever moi-même, aller rechercher Dieu, ça ne m'était jamais passé à l'esprit. Et après tout ce que je faisais dans la vie, fumer un peu de chanvre et tout ça.
Ouais.
Donc, j'ai dit que Dieu, c'est un truc qui n'était pas pour moi. Et quand j'ai commencé à vouloir le faire vraiment, et que j'ai abandonné tout ce que je faisais, je pense que ça a été magique pour moi. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu que je fasse des choses pour gagner de l'argent, mais il a voulu que je fasse quelque chose que j'aimais vraiment. Mmh. Voilà, et je me suis rendu compte que depuis petit, je rentrais en cuisine avec ma mère et que c'est ce que j'aimais, c'est ce qui était pour moi.
Tu voyais clair, quoi, en fait.
Ouais, je ne savais pas que c'était ça parce que, mine de rien, si moi, mes parents étaient vivants et que je revenais, parce que j'ai commencé sur un fourneau, ils n'allaient jamais vouloir. Écoute, tu viens de tel quartier, tu viens de telle ville, de telle famille, on se saigne pour payer billets d'avion, études pour toi à l'extérieur et tu vas venir te mettre sur un fourneau. Donc aujourd'hui, je me dis que souvent, je touche du bois, je me dis, si mes parents étaient là, franchement, je ne suis pas sûr que Texas allait exister.
Ouais.
Ouais, parce que ça allait être une grosse bataille. Je vois beaucoup d'entrepreneurs français dans cette bataille.
Ouais.
Beaucoup d'entrepreneurs ivoiriens se plaient dans le monde dans cette bataille avec les parents.
Bien sûr.
Moi, mes parents n'étaient pas là, donc j'avais le libre choix de faire quelque chose qui me plaisait. Voilà.
Mais c'est intéressant, parce que du coup, t'es vraiment passé, parce que les gens ont souvent l'impression, de l'extérieur, les gens auraient pu imaginer que t'as toujours su que tu voulais faire de la cuisine.
Non, jamais.
Et que tu t'es, que tu as décidé dès le début de faire un resto. Mais là, ce que tu décris, en fait, super important pour nous, parce que, en fait, il y a plein de gens, des fois, qui passent par la même situation, qui sont perdus, parce que t'as étudié quelque chose, t'as eu plein de problèmes dans la vie, mais tu ne sais plus. Et je pense que est-ce que c'est pas la première fois que toi-même tu parles de ça aux gens? Je pense que les gens ne savent même pas qu'en fait.
Tout ça. Non, c'est l'une des premières fois auxquelles je parle. Je parle de ça à TEDx.
Okay.
C'est la deuxième fois pour dire que c'est été un déclic de voir des gens qui disent waouh, vraiment c'est bien, c'est doux. Et le lendemain, quand je me réveille, je commence à faire une autre recette.
Tu as commencé à cuisiner direct.
À cuisiner une autre recette. Je commence à faire d'autres recettes parce que c'est le moment que j'ai découvert ma passion. Donc je commence à faire chaque jour.
Chaque jour, tu prépares.
Je commence à préparer.
Donc c'est ta copine de l'époque, elle devait être contente, hein, parce qu'elle, elle avait à manger. Le gars se chauffait comme ça.
Et je sais pas pourquoi, mais je ne faisais que des grillades. Parce que on peut dire donc, quand tu aimes cuisiner, tu fais tout.
Ouais.
Mais ça, c'est une grosse leçon aussi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que tu ne peux pas se disperser. Mmh. Je suis concentré sur les grillades, je me suis concentré sur des grillades américaines et je suis resté dessus jusqu'à présent. Je pense que ça, c'est l'une des clés de mon succès. Je ne me suis pas éparpillé à aller faire choukouya, tessi, cela. Non, je me suis concentré sur une chose et j'ai réussi à le faire mieux que beaucoup de personnes.
Mieux que beaucoup, ça, c'est clair. Ouais.
Donc là, tout le monde te dit c'est doux. C'est quoi la suite? Parce que on a vu dans l'épisode avec Jenny, on dit il suffit pas de savoir cuisiner pour faire un business.
Exactement. C'est pas juste faire ses doux qui fait que tu fais un restaurant.
Bien sûr. Et après, il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de discipline, une grosse vision parce que moi, je commence à préparer. Mm-hmm. Ben, je ne sais pas que je vais préparer pour les gens. Mm-hmm. Je prépare parce que ça me plaît déjà et que les gens appréciaient pour la première fois ce que je faisais. Mm-hmm. Donc, je commence à essayer d'autres recettes. Je commence à essayer à savoir si c'est... Et ça me plaît de tous les jours. Je commence à voir même en rêve des recettes. Je pense que
oui,
ça va être pareil pour vous ou bien pour tout entrepreneur.
Ouais, en fait,
une fois que tu mets ton temps dans quelque chose, même en dormant, tu le vois. ça doit être arrivé à chacun d'entre vous ici. Je
exactement.
Pense. Si vous êtes passionné de ce que vous faites, même en dormant, vous voyez quelque chose que vous pouvez faire.
Wow.
Et là, on pourrait dire que peut-être, comment on dit, Dieu te parle dans les songes et tout ça, quand tu dors. Mais c'est vraiment un songe que je voyais. Je voyais des recettes. Qui ne sont pas moi, c'est pas moi qui les ai créés, mais les améliorer. Parce que moi, je rentre en cuisine, quand je rentre en cuisine pour préparer pour les gens, je rentre avec la recette de ma mère. C'est-à-dire, je rentre avec son assaisonnement pour faire le burger. Mais de quand j'ai commencé en 2014 à aujourd'hui, moi, j'ai un assaisonnement particulier à moi. J'ai l'assaisonnement de ma mère. Je rentre en cuisine avec ma fille maintenant. Je lui montre, voici l'assaisonnement de ta grand-mère. Je lui montre ça. Voici l'assaisonnement de ton père, ce que j'ai amélioré. Voici où je suis. Et si tu veux, si ça te passionne un jour, tu pourras le faire, toi aussi ta propre version. Mais au moins, tu as nous de nos versions avec lesquelles tu peux te débrouiller. Je pense que depuis 2-3 mois, c'est elle seule qui fait les assaisonnements à Texas Grill.
Attends, elle a quel âge?
Elle a 21 ans.
Wow.
Personne ne le sait, mais c'est elle qui fait. Et je pense qu'elle a plus de...
Et on a un goûteur certifié. Tu confirmes que c'est doux?
C'est toujours doux. Il n'y a pas de airball chez Texas.
Elle est meilleure que moi. Je peux confirmer qu'elle est meilleure. Oui, elle est meilleure que moi.
Ouais. Wow. Ouais.
Mais c'est intéressant juste ce que tu dis là, parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent aussi, même si c'est pas dans la restauration, même si tu n'es pas forcément de Yopougon Koweït ou tu es de Yopougon Koweït, quelque chose que tu dis qui moi m'intrigue, c'est que souvent on dit les gens savent pas retrouver comment je peux faire quelque chose qui est destiné pour moi. Comment reconnaître quand je fais quelque chose qui peut t'aider à devenir même le focus de ta vie, qui peut devenir au-delà de la passion, parce qu'en fait ce que tu décris, c'est intéressant parce que je vois que il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, je suis bon à rien » ou « Je suis pas passionné par quelque chose, j'ai pas de passion. » Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un maintenant qui te dit ça, jeune qui te dit ça?
Moi, je dis toujours aux gens que tout le monde peut être entrepreneur parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Non, c'est impossible. » Mais moi, je dis « Tout le monde peut être entrepreneur. » Pourquoi? Parce que déjà, tout le monde a une capacité. Il n'y a pas quelque chose qui a été créé sur la terre sans une capacité. C'est-à-dire, au-delà de la passion, c'est-à-dire même les animaux, les plantes ont été créés pour quelque chose.
Ouais.
Une plante peut soigner le palu et tout ça. Et donc, mais on n'a pas tous le mindset pour pouvoir ressortir. Souvent, même tu trouves ta passion, mais tu n'as pas la discipline et le mindset pour pouvoir le faire connaître aux gens. Quand je suivais l'émission où vous parlez avec la dame, elle disait, c'est vrai que tout le monde, tu t'es préparé, mais est-ce que tu sais vendre?
Exactement.
Mais moi, ce n'est pas ça. Tu sais préparer, oui. Mais quand tu finis de savoir préparer, il faut le montrer au monde.
Ouais.
Parce que tant que tu ne le montres pas, tant que tu as un gift, un don, et qui n'est pas exposé au monde, tu ne peux pas avoir de la clientèle. Moi, quand je viens chez moi, chaque soir, je peux avoir... un billet de 50 000 francs à payer. C'est-à-dire, j'offre. Parce que pour moi, même le plus grand dealer de drogue, il sait que la première dose, il la donne gratuitement pour que tu reviennes demain.
Exact.
Pour savoir si c'est la meilleure qualité.
Ouais.
Donc, quand tu viens chez moi, que tu payes un burger, souvent, je peux t'offrir une brochette. Pas parce que je veux te donner des choses, mais parce que je veux que tu goûtes et que tu saches que c'est bon aussi comme le burger. Je donne le poulet, je t'offre des choses, j'ai pris des 50 000 francs par jour de recettes jusqu'à présent. Et parce que je veux convaincre les gens que ce que je fais est mieux et ce que je fais est meilleur.
Oui, je te confirme d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai mangé pour la première fois tes ribs.
Ah, ok. Ah.
Oui, je me souviens, on était venus, tout le monde nous avait dit « Ah, c'est les burgers ». Donc moi, un grand amateur de burgers, je me pointe. On mange une fois, deux fois des burgers, c'est très bon. Et puis je crois qu'une fois on est venu.
Ah avec non, mais les ribs, c'est terrible.
En fait, et je ne l'oublierai jamais parce qu'on était peut-être 8 ou 9. On a commandé à manger, tout le monde avait pris quasiment des burgers. Et tu es venu, tu nous as dit, ah, tenez, voici les ribs. Je pense que tu t'en souviens même pas.
Non, j'ai oublié.
Tu as oublié, tu as posé les ribs, tu as dit, ah, prenez les ribs, goûtez.
Ouais, ok.
Et moi, je suis pas un fan de ribs. Enfin, comme j'ai pas l'habitude de manger du porc, en vrai, c'est pas le truc qui spontanément, genre, tu mets sur la table, je vais prendre.
Ouais, ok.
Mais les gens sur la table ont commencé à dire, c'est trop bon. J'ai fait, mais attends, c'est quoi cette histoire? Donc, l'homme a goûté. Ah, mais depuis.
Oh.
Vraiment. Ah ouais. Donc je pense que ce que tu dis là,
pour moi, c'est tant que tu n'exposes pas ton don au monde, tu ne seras pas connu. Il y a des gens qui préparent mieux que nous.
La question, c'était de connaître son don.
Mais connaître son don, c'est quelque
Comment
chose
tu le
que
reconnais,
tu fais. C'est quelque chose que tu fais sans te fatiguer. Moi, quand je rentre en cuisine, je peux faire du matin jusqu'au soir en train de cuisiner. Sans que ça me dégoûte, sans que j'arrête. En fait,
si je ne sens pas l'énergie. Tu
c'est comme si on m'a donné un truc à prendre pour faire cela. Exactement. Alors il y a des choses que je fais pendant quand je prends un livre, je me force à lire. Quand je prends un livre, je peux lire et puis après je ferme. Donc c'est ma passion. J'ai découvert ma passion. Voyager, c'était les choses que je faisais, mais ça ne me plaisait pas du tout en fait. Je venais chercher, on me donnait de l'argent, ça ne me plaisait pas. Mais quand j'ai commencé la cuisine, même sans 5 francs, sans avoir de l'argent, sans avoir des clients, mais c'est quelque chose que je faisais et que j'aimais.
C'est un très bon point parce que c'est ce que d'ailleurs David avait dit dans l'épisode « Comment reconnaître son ikigai ?» C'est le concept japonais de quand ce que tu aimes rejoint ce que dans le monde est prêt à te payer et ce dans lequel tu es meilleur. Il disait que tu le reconnais parce que c'est des choses où pour le reste du monde c'est du boulot, mais pour toi c'est du plaisir. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que beaucoup de gens ont ces trucs-là, mais ils ne se rendent même pas compte des fois.
Non, ils ne se rendent
mais
pas compte.
Si tu avais ce plaisir-là et que les gens ne t'avaient pas dit que c'est doux.
voilà, tu disais, mais c'était nul.
Passion,
oui, mais comme je dis à certains.
Il y a des gens qui aiment jouer au foot, mais
ils sont nuls, quoi.
Mais après, comment je peux pas comparer à notre plus grand joueur à certains joueurs, mais il a son aura et ce qu'il a fait.
Son niveau,
oui, ce qu'il a fait. Ce que moi je veux dire, c'est-à-dire, le talent ne suffit pas. Pour faire de toi un bon cuisinier, le talent ne suffit pas. La discipline. C'est-à-dire, moi, comme j'ai dit, je n'ai rêvé à des recettes. Ce n'est pas parce que je ne fais rien et je suis là. Mais une fois que j'ai commencé à mettre mon temps à vouloir préparer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des burgers. Demain, je fais des hot dogs. Après, demain, je fais des burgers. Je commence à voir, à lancer une pizza, lancer quelque chose, faire ci, faire cela, faire comme ça. Donc, c'est ma passion. Que ça plaise ou
après,
pas.
Après, il faut la travailler.
Moi, je travaille. Et donc, il faut être constant maintenant. Quand tu commences à être constant, à préparer, je pense qu'un jour, ça va passer. Parce qu'il y a des gens qui sont là aussi, c'est vrai, qui préparent et c'est pas doux.
Ça me fait penser, vous n'avez pas vu la vidéo qui tourne de Ed Sheeran quand il était une de ses premières auditions.
Où il était avec son ukulélé, là.
Ouais, mais en fait, quand il chante tellement mal que les gens en commentaire, ils disent, c'est pas toi. Alors que c'est lui.
C'est Ed Sheeran même.
Oui.
Mais il chantait mal avant.
C'était sa passion. Mais il a tellement travaillé ça que c'est devenu le Ed Sheeran que...
Wow.
Ouais, mais si tu entends la voix, tu te dis, mais je chante mieux que lui.
C'est pareil comme, je pense, il y a un chanteur américain qu'on appelle Ray, qui portait les lunettes et qui est décédé maintenant.
Ray Charles.
Il est parti en audition pour être dans une école de musique. On lui dit, non, tu n'as pas de talent. Sors de là. Mais l'argent qu'il a fait dans le domaine, pouvait racheter l'école.
Non, c'est vrai,
le
talent suffit pas.
Voilà, donc le talent suffit
pas.
Il faut la passion,
il faut la
discipline, la résilience, et il faut toujours bosser ça. Il faut la constance, surtout la constance. Voilà,
et après, ce qu'il disait, c'est qu'à un moment, il a dit, je pense que si tu l'aimes et que tu le fais juste pour toi, sans jamais t'occuper de comment les gens réagissent, peut-être que tu t'amélioreras pas. Mais lui, il t'a dit que ce qui l'a marqué, c'est la réaction des gens. Donc en fait, si c'est ça qui drive ta passion, tu le fais pas juste pour toi. C'est pas genre je fais ma bouffe, si moi ça me plaît, je m'en fous. C'est que il avait envie que ça plaise au final.
À tout le monde,
Donc c'est ça, je pense, qu'il y a aussi le truc. Il y a une notion de.
Tu découvres que tu es important pour quelqu'un.
Exactement.
Donc tu avais vraiment. Enfin, quand quelqu'un te dit c'est trop bon, ça te fait.
Quand j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé sur un fourneau, et une petite table, une table comme ça, et un fourneau. Mais vu qu'on ne me connaît pas pour le moment, donc tu peux être en train de préparer et ta nourriture demain après demain va commencer à tourner. Donc moi je suis là, je vois des gens, je les donne, mais tout ce que je gagnais, c'est pas l'argent, mais c'est le merci. Merci, c'était très bon. C'était comment? C'était bon? Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Oui, c'est bon. Parce que en ce moment tu n'as pas de client, tu as la marchandise mais t'as pas de client. Et les clients commencent quand tu commences à exposer ton don. C'est à dire que au début tu es là, tu sais toi-même que tu sais le faire. Tu sais toi-même que ce que tu fais est bon. Mais il faut convaincre les gens. Et pour les convaincre, il faut qu'ils goûtent. Mais tant qu'ils n'ont pas goûté, ils vont te voir, ils font. Ah, c'est un gars qui est dans la rue, il y a la poussière autour de lui. Sur un fourneau, on a fait burger et steak. Mais qui va venir manger?
Parce que du coup, là, pour bien comprendre l'étape, c'est que tu passes donc de la cuisine à la maison. Mm-hmm. Oui. Et à un moment donné, tu dis, bon, cette affaire-là, je vais l'emmener maintenant.
Il y a un gars qui a une boîte de nez qui vient, qui dit, non, écoute... qui voit parce que c'est
mais comment il t'a connu?
Il connaît mon ex au fait. D'accord. Donc c'est mon ex qui s'est préparé normalement. Mmh. Elle prépare plusieurs choses.
Elle fait tout.
Voilà. Donc tout le monde le sait qu'elle s'est préparée. Donc il vient la voir, il dit mais écoute, on veut, faut venir préparer pour nous et tout ça là devant la boîte de nuit, comme il y a pas de trucs pour que les clients restent plus longtemps. Elle dit elle veut pas. Et ils viennent me voir, il faut la convaincre et tout ça. Elle dit bon va faire, tout, pour faire. Donc elle reste, elle s'en fait du poisson
là,
il brisé.
Mais là, savait pas que toi, tu faisais.
Non, mais moi, si je savais pas que je pouvais. Parce que moi, je devais ma passion, mais je sais pas que, est-ce que je vais la commercialiser ou pas. D'accord. Ça, c'est pas encore dans ma tête.
Ok.
Donc elle s'en va faire poisson brisé. On n'a pas de grosses recettes et tout ça. Mm-hmm. Et elle est plutôt dans l'esthétique. D'accord. Donc elle travaille dans un institut qui lui dit de partir en France et pour lui faire une formation pour revenir. Mmh. Et donc pendant qu'elle part en France, moi je viens et puis j'ai dit bon écoute, est-ce que je vais pas lancer en même temps les burgers et tout ça? Et donc je récupère la table et le fourneau, je lance burger, côte de porc, après je mets les steaks, je vois que ça accroche les gens qui sont là.
Donc, tous ceux qui sont dans la boîte.
Tous ceux qui sont là, ça les accroche, mais pas au-delà de ça. Donc c'est toujours la même clientèle qui venait.
Dans quelle après, commune, vois, quelle boîte?
Où j'ai commencé, où vous êtes venu?
Ah, c'est là.
Dans le même bâtiment, j'étais à l'autre bout du bâtiment. Mm-hmm. Dans le même bâtiment.
C'est vrai qu'il y a plusieurs boîtes.
Oui, et un jour, le propriétaire me dit, bon, écoute, moi, je veux que tu payes mon loyer. Parce qu'à un moment, quand ça commençait à prendre, il te paye le loyer. Il dit, non, je ne peux pas payer ton loyer.
Parce qu'il a vu, les gens venaient tout le temps.
Je fais la communication, je fais tout. Je préfère prendre cet argent pour communiquer, que les gens viennent.
Et puis, il t'a appelé pour ça.
Ils mangent chez moi, ils boivent chez toi. Il dit, non, lui, ça ne lui plaît pas. Donc, il lui va fermer le coin. Et lui-même, il ferme son coin.
Ah, il ferme sa boîte.
Il ferme sa boîte.
Seigneur.
Donc, moi, à l'autre bout du bâtiment, il y a une dame qui fait pareil aussi, mais qui a un restaurant, où vous me connaissez maintenant. Elle était là et elle était en faillite. Donc, je viens et je lui dis, écoute, ne vends plus la nourriture, laisse-moi vendre. Et puis, toi, tu vends ta boisson au même prix que le bar, comme ils ont fermé là. Donc, on est parti. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, on a commencé à vendre
elle aussi,
le soir.
Elle n'avait pas d'argent, donc tu étais venu aider.
Elle a commencé à vendre le soir. Elle vend sa bouteille d'eau maintenant, elle vend à 500, elle vend à 1000 francs. Donc, en 2 mois, elle refait sa santé financière. Elle dit, bah, écoute, vous les Ivoiriens, on ne sait pas quand ça capote. Je quitte là en même temps. Je me suis remboursé.
Je me suis refait.
Je me suis remboursé, je quitte là.
Ce n'était pas une Ivoirienne?
C'est une Ivoirienne.
Okay. Mais elle n'a pas confiance.
Voilà. Elle dit, il y a plein de perdre l'argent encore, donc je quitte là. Donc, de voir le propriétaire du bâtiment pour récupérer le coin.
Donc tout le monde est parti là.
Voilà. Donc je vois le propriétaire du bâtiment, je dis, moi je vais récupérer. Mais il dit, oui, il faut prendre. Parce que lui, j'étais avec ses enfants en Inde, en tant qu'étudiant.
Ah bon?
Donc lui, il était étonné de me voir. Mais il dit, oui, il faut prendre. Et si tu as l'argent, tu payes, ou bien tu as payé après, tout ça. Il dit, bon, on va voir. Je vais voir un de mes oncles. Voilà, c'est vrai que je veux payer, je veux prendre un coin et tout ça là. Parce que. Il a dit, bon, il va voir. Après, il a vu. Il a dit, OK, pas d'argent, je vais te donner de l'argent. Vu que tu as fait au moins 2 années là.
La caution, tout ça.
On a vu que tu as aimé.
Ouais, donc, pendant 2 ans, tu étais
sur la table.
Ça a duré 2 ans.
Oui. Sur la table.
Oui. Il faut que les gens comprennent. Ouais. C'était pas. Il y a plein de gens qui auraient abandonné à ce moment-là. Hein.
24 mois.
C'est ça qui m'a dit la résilience et la continuité et tout ça. Oui. Pendant tout ce temps, j'étais encore sur la table. Pendant 2 ans.
110
et donc, je disais. Mais j'avais déjà ma vision.
Parce que là, tu as commencé à imaginer.
J'ai déjà ouvert la page, j'ai mis Texas Grill. Mais comment on ne peut pas mettre Texas Grill sur une table? Donc les gens viennent, c'est où Texas Grill? C'est ici là? Non, on ne peut pas s'asseoir ici. Non, on ne peut pas. Nous, on peut, nous, on peut pas. Jusqu'à ce que... Donc c'est un Européen un jour qui a fait un poste, qui a dit que de tous les pays qu'il a visités, c'est son ancien consommateur averti d'ailleurs. C'est la première fois qu'il mange un burger aussi bon de tous les pays qu'il a visités. Que le gars est sur juste un fourneau et une table, il est étonné. Donc, le lendemain, je vois plein de voitures. Moi, je ne savais pas. Je vois des 4x4 plein de blancs et tout ça. Ils viennent, c'est où Texas Grill, s'il vous plaît. Je viens quoi appeler Texas Grill. Et c'est ici. Non, faux. Toi, tu es un menteur.
Donc, ils tournent dans le quartier.
Ils tournent. Après, ils sont convaincus. Après, ils disent non, on ne peut pas s'asseoir. Donc là, j'ai vu que je ne peux pas recevoir tout le monde. Voilà. Donc, voilà après, j'ai commencé à développer les concepts restaurants maintenant. Pour pouvoir recevoir au moins tout le monde.
Avant, concept restaurant, est-ce que tu considères
c'était sur une table, c'était juste un street food.
Oui.
Un street food, fourneau, table, on sert.
Mais il y avait des. Ok. Parce que moi, quand j'ai connu, il y avait des tables et des chaises.
Oui, c'était la terrasse du bar.
Voilà.
C'est pas notre terrasse à nous.
Ok.
Donc, c'était la terrasse du bar. Mmh. Et donc, voilà. Et donc, même où vous m'avez connu, c'est, on était sur le parking.
Oui, ça, c'était le parking. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, c'est le street food, mais sur le parking. Et puis, l'utiliser l'intérieur pour faire la cuisine. Après, on a
fait. Mais ça, c'était en quelle année, ça, du coup, le poste, là, qui a tout changé dans un consommateur averti, c'était quand?
C'était autour de 2016, 2017.
Ouais, 2017.
Quand on est arrivé.
Oui, ouais, vers là, quand toi et moi, on est arrivé.
Ouais, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, donc, un consommateur averti, c'est un groupe ultra influent et qui fait trembler toutes les marques en Côte d'Ivoire.
Ou qui les fait.
Ouais. Où chaque consommateur peut partager son expérience en tant que consommateur.
Et, donc,
et c'est très, 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 très suivi. Donc,
c'est très suivi, ouais. Et donc, ça nous a beaucoup chicoté, ce groupe-là. Mais bon.
On s'est après, ils t'ont chicoté.
Mais c'est pas eux, c'est
les gens dedans.
C'est les gens dedans.
Le consommateur ivoirien est très.
C'est pas facile. Parce qu'après, quand tu commences à monter, il faut que ton level suive. C'est-à-dire que tu commences à avoir beaucoup de clients, mais tu ne peux pas les satisfaire toute la clientèle. Il y a d'autres qui repartent frustrés, qui racontent des choses.
Ouais. Comme tu décris là, tu avais plein de gens qui sont arrivés d'un coup, donc tes tables là ne suffisaient plus.
Ouais, et c'est comme ça. Même en ce moment, je servais dans des assiettes en plastique.
Oui, c'est vrai.
Et c'est une dame qui me dit, non, écoute, moi, il vient mon mari, et puis tu nous sers dans des assiettes en plastique. À partir d'elle. Elle est toujours là d'ailleurs. Ah. Après, dès que je commence à mettre des assiettes en porcelaine et tout ça. Donc, c'est comme ça. Je veux dire, c'est vraiment le retour de mes clients.
Mais tu as toujours été à l'écoute des clients.
Beaucoup, parce que c'est eux qui nous font, les clients. J'ai vu que la dame a dit, elle, c'est ses employés, ensuite les clients. Moi, c'est mes clients, mes employés et moi. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, mes clients d'abord, je suis toujours à leur écoute parce que c'est eux qui savent ce qu'ils ont envie de vivre. Mmh. C'est eux qui savent l'ambiance dans laquelle ils ont envie d'être. Donc, quand tu finis d'écouter, tu manages maintenant tes employés avec ton leadership à ce qu'ils puissent rentrer dans le canevas des clients et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je peux être en Afrique de l'Ouest ou bien, en Afrique de centrale ouest. Moi, je suis l'un des restaurants, sinon le premier restaurant à avoir autant de retours. On a autour de 2800 retours sur Facebook. Il n'y a pas un restaurant comme ça, peut-être dans toute l'Afrique.
Maxwell, donc on va arriver après à la partie expansion, puisqu'on a vu premier restaurant, il y en a 5 maintenant. Mais avant ça, ce que j'aimerais que tu nous expliques, est-ce que tu t'es formé, parce que tu vois, la manière dont tu décris cette période-là, quand même, je suppose qu'avec le recul, tu l'exprimes mieux, mais tu as quand même l'air d'avoir un truc pour l'entrepreneuriat, tu vois. C'est-à-dire que tu passes de la cuisine où tu étais avec ton ex à développer une activité, avoir des employés, etc. Comment la transition se fait, en fait?
Déjà, moi, j'ai vu que j'étais pas...
Tu crées l'entreprise formellement. Bon, il y a prescription, tu peux le dire.
C'est ça.
C'est formel. Est-ce que l'entreprise est formelle dès le départ?
Pas dès le départ. Le départ, mais à partir d'une certaine année, je pense à partir de 2018.
Ouais.
À partir de 2018, quand on ouvre le restaurant qui est cassé, 2018, quand on a commencé à faire les travaux, on a été formel. Parce que je commence en 2017.
Mais tous ces trucs business-là, comment ça te vient en fait?
Je ne sais pas, comme ça. Moi, franchement, c'est ma passion pour la cuisine qui a commencé à m'ouvrir les yeux sur d'autres choses, sur d'autres segments. Voilà.
Tu as observé peut-être d'autres aussi?
Voilà, donc je suis là le soir quand je rentre, j'ai mon YouTube, je regarde des restaurants américains, je regarde des restaurants coréens, je vois ce qu'ils font. C'est comme ça que je commence à améliorer mes recettes, à les changer, parce qu'il n'y a rien de nouveau, on apprend tout.
Et tu regardes que leur partie cuisine, etc. Tu regardes aussi la partie business?
La partie cuisine, la partie business et le développement aussi. Donc je commence à voir des vidéos sur les stocks, à voir les vidéos sur... parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes législations. Donc, je regarde beaucoup sur la manière de faire l'opérationnel. Maintenant, pour le côté administration, je prends un ami qui était comptable quelque part. Je dis, écoute, moi, je ne sais pas comment ça se fait, mais viens. Donc, lui, maintenant, il commence à aller enregistrer à l'entreprise et tout. Comment ça fait? Mais je prends le soin d'aller à l'OAP pour pouvoir enregistrer, pour garder le nom, quand je vois que ça commence à apprendre. Donc, quand on finit d'ouvrir celui de 2017, qui est le premier magasin où vous m'avez trouvé sur le parking, là, maintenant, on a une opportunité d'ouvrir vers le lycée français. Et donc, quand je paye le terrain, mais quand je paye la location, là, maintenant, on commence à formaliser. On commence à aller prendre tout ce qui est administration, impôts et CNPS et tout pour les employés. Parce que là, ils sentent que maintenant, ça va être quelque chose de grand. Là, j'étais encore en train de m'amuser.
Ouais. Tu apprends tout ça grâce à ton ami.
Voilà. Là, grâce à mon ami, je commence à avoir... Ce qui fait que même aujourd'hui, on a encore des lacunes, hein, parce qu'on a commencé à coller les informations pour pouvoir le faire. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui nous dit, écoute, quand tu ouvres ton entreprise, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, nous, en fonction de ce qu'on pensait, on commençait. Donc, je me dis que j'ai besoin de, peut-être de RH. Je vais voir parmi les clients si je trouve un RH quelque part. voilà. Mais oui, ça. Moi je suis trop collé à mes clients. Et je pense qu'ils me le rendent bien. Et c'est vrai que ça peut être une faiblesse, mais après, j'ai vu que c'était bénéfique pour moi. Je ne dis pas à tout le monde de le faire comme ça, mais c'est bénéfique. Bon, j'ai été tellement collé à mes clients que j'ai eu certaines informations aux impôts, certaines informations pour mon administration, ressources humaines et tout, quand on a bien calé. Après l'ouverture du coin et que ça a été cassé, là j'ai commencé à l'expansion.
Alors,
attends.
Ça c'est le grand moment que tu nous passes là.
Tu ne peux pas passer comme ça.
Sur ce grand moment, parce que ça a été un traumatisme pour beaucoup de gens. Moi personnellement, parce que j'habitais à côté.
Oh.
J'habitais à Jacques Prévert.
Donc quand
tu as ouvert en face du lycée français là, pour nous, c'était la délivrance. On était là le jour où tu as ouvert, où c'était la guerre.
Ouais,
on pouvait même pas se garer. On a dû marcher de Jacques Prévert jusqu'au
truc. On est obligé de faire un moment là-dessus parce que ça a été un très, très, très gros buzz sur les réseaux sociaux. Donc là, tu trouves cet emplacement à côté du lycée français.
Oui.
Donc, entre guillemets, jackpot.
C'est le lieu, vraiment.
C'est le lieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Raconte-nous.
Je pense qu'à l'ouverture, c'est la première fois que j'ai touché une recette de 1 million comme ça.
En un mois, en une journée.
En un jour. Et là-bas, franchement, c'était... Non. Quand je voyais même les embouteillages du rond-point à l'autre rond-point.
Jusqu'à l'autre rond-point, on pouvait passer pour aller.
J'étais étonné que... Moi, je n'ai pas de musique dans mon restaurant. Je n'ai pas de musique, je n'ai pas de télévision. Et je n'utilise pas des racoleuses et tout ça. Donc, je me suis dit... Juste la nourriture peut drainer du monde comme ça. Et là, c'était... voilà. Je me suis dit que, on tient quelque chose. Et fin de la première journée, on a touché un certain montant. Waouh. J'ai dit, OK. Donc, on ne lâche plus. Après, j'ai commencé à entendre qu'il y a eu un accident.
Un accident où?
Un accident devant le restaurant.
Devant
le
restaurant.
Ou bien qu'on crée l'embouteillage et tout ça. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, on a une allée qui prend 20 voitures. Et donc, ça, c'est la route du gouvernement. Moi je n'ai pas le droit d'aller dire à quelqu'un de ne pas te garer là. Mais comme je vois dans certains coins au plateau et tout ça, où il y a interdit de stationner.
Oui, il y a écrit.
Vous venez, vous mettez interdit de stationner et il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui a sa voiture de ne pas se garer parce que moi, j'ai un parking de près de 20 voitures à l'intérieur. Et donc, un jour, on m'appelle de la mairie pour me dire... on ne sait pas ce que tu as fait à qui, mais franchement, on nous a appelé du ministère pour dire qu'on casse ton restaurant dans 48 heures, dans deux jours.
Quoi? Out of nowhere comme ça?
Yeah.
C'est la mairie qui t'a dit ça comme ça?
La mairie qui me dit, un agent de la mairie qui me dit qu'on sort d'une réunion avec le ministère de quoi là? Et des routes bien, je ne sais pas, de quoi là, pour dire qu'on casse ton restaurant dans 48 heures. Donc si tu connais quelqu'un... Allez, vas-y.
Si tu connais quelqu'un, c'est quelle sorte de process?
Si tu connais quelqu'un, vas-y, parce que là, ils ont déjà décidé. Donc, si tu connais quelqu'un, vas-y. Donc, on casse dans 48 heures. Et c'était, je pense, un mardi. Donc, moi, la veille, j'appelle la dame. La nuit, j'appelle la dame. Est-ce que tu as tes papiers, tout ça? Elle dit, oui, elle a tous ses papiers.
La dame qui te loue
qui me loue le coin. Et que non, t'inquiète pas, on va au ministère demain matin très tôt. Le lendemain, c'est mercredi. Donc, le lendemain, mercredi, nous sommes en route pour le ministère. Et il y a un client qui m'appelle, un de mes vieux pères. Il me dit, écoute, apparemment, ce n'est pas dans 48 heures. Parce que je venais de faire un post qui avait fait l'émoi sur Facebook.
Oui, tu avais fait un post pour prévenir les
gens. J'ai fait un post et donc les gens ont commencé cette nuit, les gens ont commencé à me menacer. Efface ton post. Non, tu vous créez des problèmes. Après, maintenant, vous venez écrire, vous faites des posts à la con. Efface ton post.
Mais le post disait quoi?
Okay, non, mais...
Dans 48 heures, on va fermer.
D'après mes
48
sources.
On va fermer, oui. D'après mes sources, j'ai dit, c'est moi, tel gars de la mairie, les gens de la mairie, ils m'ont raconté. Le gars m'appelle, il me dit non, il efface mon nom. Il dit où je suis là.
Ah, mais Max, tu as vendu le gars.
Mais oui, sur la place publique.
Mais
ça, mon gars.
C'est là que tu vois la force des réseaux sociaux. Moi, en cette nuit-là, j'ai vu la force des réseaux sociaux.
Ouais, parce que même nous, on était outrés.
Écoute, efface, parce qu'ils ont commencé à partager. Je vois que ça arrive aux États-Unis, partout. Et donc, efface. Il dit, non, je ne peux pas effacer. Oui. Et donc, c'est resté comme ça sur Internet. Mmh. Et le lendemain matin, je vais avec la femme. Pendant que je suis en route, il y a un de mes vieux pères qui m'appelle. Il me dit, écoute,
C'est pas 48
heures. C'est pas la 48 heures, mais c'est tout à l'heure, 11 heures. Ils vont casser. C'est aujourd'hui même à 11 heures, ils vont casser. Il dit, quoi? Donc, le temps de revenir, on reprend la route, on sort du ministère de la Construction. On revient rapidement, arrivé à la corniche au plateau. Il y a un de mes vieux mecs qui m'appelle, elle me dit, écoute, tu fais quoi? Il dit, c'est un roulet, il dit, on gare. Et puis, ils ont cassé ton restaurant.
Et quoi? Donc, parce que du coup, vous aviez payé pour tout construire, là, vous avez...
Oui.
Vous avez payé pour... Ouais, parce que quand toi, avant que tu arrives, il n'y avait même pas de...
Mais t'as
y avait pas de bâtisse.
Y avait pas non, y a, de c'était pareil. C'était pareil. Non, il y avait un restaurant d'abord au début qui ne marchait pas.
Ouais.
Et donc, il était là. Mmh. Et il y avait un autre restaurant dans le fond.
Dans le fond, oui, c'était un
maquillage. Dans le fond, il y a un restaurant, là, il est tué là. Mmh. Et toujours là. Il y avait un restaurant qui était là, mais qui ne marchait pas. Donc, je pense que ça ne les dérangeait pas.
Ouais.
Et donc, vu que j'ai pris et qu'il a commencé à avoir de l'embouteillage, je pense que là, ça a commencé à déranger les gens.
Putain.
Donc, je dis, vous voulez qu'on ouvre des business et que ça ne marche pas? Parce que, je ne sais pas, ça ne marche pas, vous les laissez. Maintenant, comme ça marche, vous décidez de casser. Donc, vous voulez qu'on ouvre un business et qui ne doit pas marcher ou quoi? Parce que si on ouvre un business, ça peut se faire de l'argent.
Ouais.
Et donc, ils ont cassé. Moi, j'ai garé, j'ai fondu en larmes.
Mais bien sûr, tu n'étais même pas là. Tu n'as même pas vu, quoi.
Non, je n'ai pas vu. J'ai fondu en larmes. La dame qui était à côté de moi, elle me dit, calme-toi. C'est là-bas que j'ai pleuré. Et puis après, je n'ai plus pleuré. Je suis arrivé.
Wow.
Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu mes employés se battre même avec les gars de la machine et tout ça. Je les ai calmés. Non, calmez-vous. Laissez, ils vont faire. Vous avez sorti des affaires, ils ont sorti quelques affaires, mais les gens ont tout démoli. C'est la première fois que je paye une cuisine industrielle. Ils ont cassé la cuisine industrielle.
Ils ont cassé la cuisine industrielle.
Oui, tout. Ils ont tout cassé.
Non, mais pas juste, je sais pas, un truc interdit. Une notice.
La machine était déjà là. Donc, ils sont entrés, ils ont démoli le coin. Ils ont démoli. Et je pense que...
Mais t'as même pas mis un courrier, un truc?
Non. Et après, ils ont mis sur les réseaux que j'ai eu un courrier. Mais je pense que le gouvernement était un truc... En réunion des ministres, un truc, je sais pas comment on appelle ça.
Ouais,
conseil des ministres. Et donc, je pense que tous les clients, parce que j'ai des enfants même de grands types, qui m'appellent, non, mon papa a fait ça, et non, calmez-vous, mon papa. Et donc, je pense qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé en ville.
Mmh.
Et c'est là que je commence à recevoir des appels maintenant de cabinet de ministres. Plusieurs ministres ont commencé à m'appeler.
Okay.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? C'est quoi le problème? Et puis, quand j'ai commencé à expliquer. En même temps, ils ont commencé à envoyer des chauffeurs pour venir me chercher. J'ai rencontré, je pense, 3 ministres le même jour.
Le même jour, là, ils ont
cassé. Même jour, j'ai rencontré 3 ministres qui sont venus me chercher. Ils m'ont envoyé dans le ministère.
Tout ça, c'est quelques jours après l'ouverture.
Ça, c'est deux mois après. J'ai ouvert le 24 décembre.
Ouais.
Ils ont cassé le 6 mars. Donc, le 6 mars.
Okay.
Donc, ça se passe le 6 mars.
Okay.
Donc, 2 mois après.
Mmh. Mais le jour du cassage, là, le 6 mars,
oui,
là,
il a rencontré.
Une fois qu'il a fait le poste et qu'ils ont cassé.
Non, j'ai fait le poste la veille.
Ouais.
Ils n'avaient pas vu. Mmh. Donc, je pense que le lendemain matin, les gens les appelaient. Ouais. Et donc, mais ils étaient en conseil des ministres avec le président. Donc, les portables sont éteints. Donc, une fois que le conseil finit à 13 heures, qu'ils allument les portables, ils voient plein d'appels. Il y a des choses qui se passent en ville et tout ça. Parce que je pense que notre gouvernement qui est là, il est très réseaux sociaux.
Oui.
Donc, ils ont vu qu'il y a des choses qui se passaient. Donc, les ministres ont commencé à Mamadou Touré, à m'aider. Il y a plein de ministres qui m'ont reçu. Trois ministres qui m'ont reçu.
Waouh.
Le lendemain, on a deux ministres. Oui, j'explique l'histoire. Non, ne parle pas, ne t'inquiète pas. Tu seras dédommagé. Je pense que ce qui a poussé, c'est qu'ils se sont rendus. Les gens me voyaient plutôt comme quelqu'un qui a quitté aux États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire.
Oui.
Mmh.
Donc les gens disaient qu'il y a un Américain qui est venu, investi, et ils ont cassé son restaurant.
Mmh.
Et donc ça, je pense que ça a créé le moi.
Ah. Par contre, c'est marrant ça, parce que c'est vraiment ça. Il a l'image de le gars qui, qui a fait les US et qui est venu
jamais aux États-Unis.
Importer.
Tu n'as jamais mis les pieds là-bas.
Jamais aux États-Unis, je n'ai jamais mis les pieds, même en Europe. La première fois que j'ai mis les pieds en France, c'était le mois passé en janvier.
Non.
Si tu jamais allé nulle part.
Non, tu es fort.
Je suis allé juste en Inde. Et je suis venu. J'avais un mindset déjà prêt à démontrer que j'étais venu des États-Unis, mais je n'étais jamais allé nulle part. Et donc, je suis reçu par. Maintenant, le lendemain. Je reçois je suis reçu par un ministre le matin et le soir, je suis reçu par le ministre de la Défense, de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko.
Wow.
Qui me dit. Donc, on me dit qu'on doit me donner un terrain avec 30 millions et tout ça. J'apprends dans les coulisses. Quand on me donne un terrain de 30 millions, Et quand je rentre dans le bureau du ministre, il me dit, ah, c'est toi qui es venu des États-Unis, hein, comment tu vas? Donc moi, je dis, non, c'est la première fois qu'on me disait ça en face. Directement. Il dit, non, moi, je n'ai jamais fait les États-Unis. Il dit, c'est pas toi qui étais aux États-Unis? Il dit, non, jamais, c'est pas moi. Il t'a pas fait les États-Unis? Il dit, non, papa, non. Que moi, je sais que t'es un naine. Il dit, ah, ok, d'accord, pardon. Bon, on a pris une photo. Faute de camion, t'es dédommagé. On ne m'a plus jamais appelé.
Non.
Plus jamais.
Quoi? T'as jamais eu de dédommagement ni rien du tout?
Plus jamais appelé, plus jamais rencontré qui que ce soit. Jamais.
Non.
Jamais. Donc après, je me suis dit que.
Dans là, comme ça, là.
Plus jamais. Donc pour moi, peut-être je vous en dis que.
La photo, enfin, vous avez fait un post.
Oui.
Ah, ok.
C'est eux qui ont fait le post, moi, j'ai pas fait le post.
C'est eux qui ont fait un post en disant qu'ils allaient le dédommager.
D'accord.
C'est eux qui ont fait le post. Moi, après, donc je me suis rendu compte que. Ils se sont dit que voici un gars. Je ne sais pas s'ils ont eu peur peut-être des États-Unis, bien de l'ambassade,
en fait,
de quoi.
Dans leur tête, ils sont
voilà, donc ils ont un gars qui est venu d'Amérique avec son financement et ils ont cassé son business. Il est venu avec 15 ans de financement, c'est un financement. Donc, ça a été une petite panique. Mais après, quand ils ont vu que je n'ai jamais fait les États-Unis et que je venais d'arriver de l'Inde, oh, c'est qui ça là? Et voilà. Mais moi, ça fait un déclic parce que moi, ça m'a... Je crois que le même jour déjà, moi, je ne comptais pas dessus. Donc, le même jour, quand ils ont cassé le matin, j'ai dit à mes employés, rassemblez ce que vous pouvez rassembler et puis on va travailler à la 2 le soir. Nous allons travailler avec l'équipe de la 2.
Ah, non, non, ouais.
Ah, non, non. Il dit, ah, monsieur, on casse se reposer ou bien... Il a dit, non, on va travailler. Ils ont cassé le restaurant, mais on va avoir quelques mois difficiles, mais on va rouvrir le restaurant. On a dit, OK. Donc, le soir, nous avons commencé à travailler. Et donc, ça a été... la première fois que j'ai vu que les Ivoiriens avaient beaucoup de compassion, parce qu'ils sont venus, les gens viennent en famille, les enfants, les petits-enfants, les bébés, les gens viennent et tout ça.
C'est-à-dire que tu sentais que c'était en
solidarité.
En solidarité.
Donc, moi, je ne pouvais pas les décevoir. Et donc, je voulais montrer ce que je sais faire le plus, c'est travailler.
Et tu vois, moi, j'avais dit l'histoire, je pensais que ça avait brûlé, en fait.
Non,
ils ont cassé.
Donc, ça a été cassé.
D'accord, ok.
Donc, j'ai dit, on va travailler. On va travailler. Nous sommes mis à travailler. Voilà. Mais. Donc, c'est vraiment ça l'histoire qui s'est passée. Je pense que c'est là, que quand je vois sur les réseaux sociaux, le gars qui était en Amérique, le gars qui était en Amérique, moi, je n'avais jamais fait. Je n'étais jamais allé aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis l'année passée, avec le gouvernement d'ailleurs. Ah. Parce que je pense que oui.
Ah, maintenant, ils t'amènent là-bas.
Ouais, je pense qu'ils m'ont pris. Chaque fois qu'il y a des trucs, là, ils m'ont fait partir en Angleterre avec le CPC. Il y a.
En novembre et
tout ça, promotion de l'entrepreneuriat. Parce que, mais après aussi, je pense qu'ils ont raison. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, comme tu l'as dit, il y a plein qui auraient arrêté là. Ouais. Bien, je me serais dit, bon, tant qu'on ne me dédommage pas, je ne reprends pas le travail. Mais non, j'ai dit, écoute.
Toi, tu as avancé.
Non, on avance parce que une fois que j'ai goûté comment faire 1 million, j'ai pas venu encore.
Ah, tu n'as pas laissé ça.
Je n'ai pas venu m'attarder sur. Non, laissons.
Mais la dame aussi a salué parce que j'ai l'impression qu'elle a été très solidaire, la propriétaire.
Bon.
Elle n'a pas trop aidé parce qu'au final.
Bon, là, ils ont cassé et puis voilà, il n'y a rien eu après. Donc, moi, je pense que oui, elle a pleuré, mais est-ce qu'elle m'a aidé? Non.
Non.
Je veux dire, parce que tu peux réclamer des loyers.
Ouais, si mais je n'ai pas regardé tout ça.
Du coup, là, on revient. On était passé à 2 restaurants, on revient à 1.
Oui, on revient à 1. C'est ton deuxième resto comme ça, on te casse.
Donc, comment on repart
bon, mon
à 2
Mon premier vrai restaurant, d'ailleurs.
Ton premier vrai, parce que c'était encore sur la...
Oui, c'était encore sur le parking.
Non,
sur le
pour nous, c'est un mon restaurant. Vrai, ouais. Non, on appelle ça un restaurant. on revient au parking.
Je suis là et je suis maintenant avec 2 équipes. Et donc, il faut les faire comprendre que, écoutez, on va remonter. On va peut-être diminuer les salaires. On va se partager et tout ça. Parce que soit on laisse toute l'équipe,
Y a une
ou bien
équipe
soit
trop,
on travaille ensemble.
Ouais.
Alors, vous décidez quoi? Ils ont dit, on va garder les gars. Voilà. Et donc, je pense que 3 mois après, on était prêt déjà, parce qu'avec tout l'élan de solidarité, 3 mois après, on était déjà prêt à ouvrir un nouveau restaurant.
Parce que coup, c'est parce que ça, c'est très important que les gens comprennent. Quand les coups durs comme ça arrivent, le fait de continuer, mais en parlant, parce qu'il en a parlé, on a parlé, on a compté, les gens ont pu être solidaires, aider. Yeah. Mm. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, qui, quand ça va mal, se renferment sur eux-mêmes.
Ouais. Comme si c'était la honte.
Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Tu sais, ils se renferment sur eux-mêmes et du coup, ils ne bénéficient même pas.
Tu remerciais tes clients, tu les...
Bah oui.
T'as créé une communauté, en fait, finalement.
Oui, c'est pas comme si les clients sont venus donner de l'argent. Hein.
Non, non, les gars. Manger.
Ils sont venus manger. Ils viennent manger avec leurs enfants. Il y a, je crois qu'il y a une dame qui m'a donné 500 000 en cash. Ouais. Et voilà, après il y a un groupe qui a organisé un repas pour Texas Grill, un truc comme ça, où on a pu collecter 3 millions.
Wow.
Et oui, on a pu collecter 3 millions.
Et on toi, a vendu... t'avais en tête, il faut
ouvrir un restaurant.
Il faut non, que, mais il a dit,
ah oui, c'est vrai,
il peut pas laisser ça, lui, il a dit.
C'est comme un requin qui goûte le goût du sang dans l'eau. Non, il cherche la proie. Et là, il dit au gars, puisque c'est moi qui les forme, et donc comme j'ai formé, je ne vais pas les laisser partir, ils travaillent dans d'autres restaurants. Donc je les ai gardés, continuent de les former pour qu'on soit prêts. Et un jour, il y a un monsieur qui vient me voir, il dit, écoute, ils sont venus à plusieurs. Mm-hmm. Il dit, nous, on veut ouvrir un lounge, mais comme pour créer le trafic sur le bâtiment, on veut que tu prennes le haut et le bas pour faire ton restaurant. Et puis, nous, on va faire notre lounge. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire que normalement, si moi, je vais voir un coin, pour dire, je vais voir, on me dit, bon, peut-être pas de portes, on me dit caution et tout ça. Mais là, il m'a signé un contrat, sans pas de portes, sans caution.
Ça, c'est rare.
Il m'a dit, prends. Et c'est mon plus gros restaurant. Celui de Cocody.
Cocody Centre.
C'était des arts.
Ouais. Ah, c'est encore celui qui fait... Il y a plus de monde là-bas qu'à la deux. Ouais, c'est vrai qu'il est grand.
Ouais, donc c'est en haut et en bas. Ouais. Et donc...
Salut le grand fan du Real Madrid. C'est un grand fan du Real Madrid.
Yeah.
J'ai fait l'école...
Ouais. Philippe Marie.
Ouais, Philippe.
Coffee, ouais.
Ah, ok. Si, on a fait le lycée ensemble.
Vous êtes au lycée ensemble, ok.
Ouais, il y avait une salle de jeux vidéo.
Tout ça, il est passionné.
Il y avait un lounge, il y avait... Ah. Ouais. Il connaît tous les business.
Voilà. Et le business n'a pas duré. Mm-hmm. Donc moi, je suis resté dans le bâtiment. On a eu un contrat en bonne et due forme et tout. Et voilà.
Super. C'est vrai, c'était en hauteur là. Ouais.
En haut et en bas. On a eu des espaces.
Wow. Ah, le petit espace en bas, c'était aussi où?
Le Texas Grill, oui.
Ok. Mais tu sais que quand Willem était à Abidjan, manger là-bas tous les jours.
Ah oui, c'est ça,
parce qu'en fait, il avait une fois, et en fait, chaque jour, on allait.
Il a dit, on retourne là-bas, il connaît.
Et après, on a ouvert celui du Yopougon. On a eu la chance, quelques mois après, on a eu à avoir celui de Yopougon.
Ah ok, putain, vous avez enchaîné du coup.
Oui.
En combien de temps, du coup, t'es passé de 1 à 3?
Chaque année, on partait sur 1.
D'accord, chaque année.
Et donc, c'est après Yopougon. Je crois que quelques mois après, on a eu celui de Zone 4.
Mmh. Wow.
Donc, on a ouvert Zone 4.
Zone 4, je croyais que c'était plus récent.
Non, Zone 4, c'est le 1er avril 2021 ou 2022.
Ok.
Et donc, c'est toujours mars-avril que toi, tu fais tes activités. Non, c'est ton moment.
24 décembre, j'ouvre normalement. J'ouvre le 24 décembre. Tous mes restaurants, 24 décembre. C'est celui de Zone 4 qui a ouvert le 1er avril. Et celui de Latry qu'on vient d'ouvrir, nous sommes entrés, il y a une entreprise de pétrole qu'on appelle Ola, qui on a eu un tie-up donc sur deux restaurants en Côte d'Ivoire puis un restaurant à l'extérieur. Donc on vient d'ouvrir celui de Latry avec eux.
Okay.
Donc on va ouvrir bientôt à côté de l'aéroport aussi. Et puis aller sur Dakar avec eux.
Okay,
tu vas à Dakar là.
Mais du coup, parce que j'ai l'impression que chaque fois, c'est des histoires différentes, les restos. Il y a donc avec Philippe Marie, c'est un deal, un gentleman agreement.
Yeah. Mm-hmm.
Mais après, pour le reste, là, tu parlais de Ola.
C'est
chaque fois des opportunités ou alors tu es en mode je cherche un endroit.
Je cherche un endroit. Ouais. C'est pas des opportunités. Yopougon, on a payé.
T'es allé chercher.
On a payé le prix fort. Parce qu'on a, c'était une boîte de nuit et un restaurant.
Ouais.
On a payé les bails. Et les baux, si on a dit en baux. Mmh. Et puis après, on a payé maintenant la caution. Après de plusieurs millions. Zone 4, c'est plusieurs millions aussi avant de payer la caution.
Et ça te prend combien de temps pour rentabiliser chaque fois un nouveau restaurant?
Pour rentabiliser, là, nous entendons les chiffres. Là.
Ouais.
Peace. en tout cas, on arrive à avancer pour le rentabiliser.
Je ne parle pas forcément de montant, mais je veux dire, c'est pour avoir une idée. Est-ce qu'il faut être performant pendant un an?
Il faut être performant pendant un an et demi. D'accord. Un an et demi pour pouvoir le faire. D'accord. Et là, maintenant, j'ai commencé à travailler avec des banques. Oui, maintenant, parce que je me suis prouvé que je pouvais le faire.
Mmh. Et ils sont venus à partir de quel moment, tu dirais, les banques?
Les banques ont commencé à venir l'année passée.
Ah ouais, donc t'avais déjà 4 restaurants.
Oui. Parce que là, après, quand ils venaient vers moi, vu que je n'avais jamais travaillé avec eux, je ne voulais pas. Ah, mais d'accord. L'année passée, ça a commencé avec une banque qui m'a proposé des produits, mais pour acheter plutôt des terrains. Et j'ai dit, OK. Donc, j'ai pris 2 terrains avec eux. Mmh. Et après, je me suis rendu compte que c'est pour travailler avec la banque aussi, c'est pas trop difficile.
Ouais.
Donc, je suis entré maintenant avec un autre groupe. De banque, dont le DG est client.
OK.
Il est en Centrafrique maintenant. Donc, il m'a financé pour la rénovation de Cocody.
Il m'a dit... Non, mais le business du vente... Non, mais arrêtons-nous. Tu vois, non? Dont le DG est client.
C'est ça, non?
C'est-à-dire que quand tu contentes le ventre d'un être humain... Ouais.
Et là, il est en Centrafrique actuellement pour le même groupe. Et il m'a invité. Donc, on va partir visiter. Il m'a dit de venir ouvrir en Centrafrique. Ils vont m'aider, ils vont me donner. Mmh. Il a aussi DG là-bas. Donc, ils vont me donner un financement pour ouvrir. Donc,
Là, ça est là.
Peut-être qu'on va partir en Centrafrique, mais... Mmh. Moi, je préfère être stratégique, aller pas à pas, voilà. Ouais. Être très focus, je ne me disperse pas.
Et du coup, dans cette évolution, comment toi, ton rôle a évolué? Parce qu'on t'a laissé au fourneau.
Oui. Ouais.
Maintenant, comment t'as évolué? Parce que là, t'es en train de discuter avec nous, là, mais...
Tu as 5 restaurants qui tournent, là. T'as plus la même vie que nous, là.
Après, il faut se former, forcément, parce que... Parce que on n'a pas eu les coupes qu'il faut pour être entrepreneur, on n'a pas eu la formation qu'il faut pour être entrepreneur. Et donc, là, on a pris beaucoup de coups. Comme tout entrepreneur, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui disent que le business, ça marche sur Internet, mais après, qui sont dans mes bras en train de pleurer, bien au téléphone en train de pleurer.
Bien sûr.
Beaucoup, beaucoup, surtout des entrepreneurs ivoiriens, qui sont vraiment en train de pleurer. Et donc, le plus important pour nous, je pense que c'est le profit. Et donc,
Amen, comme il a dit, le profit, il faut que ça apporte de l'argent. Donc,
mais quand tu dis tu t'es formé à quoi, par exemple?
Je me forme dans des universités américaines. Mmh. Donc, je prends des cours à distance et puis je vais peut-être une semaine, 2 semaines en présentiel. Donc, je suis à Cornell, université.
Cornell, très belle université.
Et donc, qui me prend en plusieurs cours dans la restauration.
C'est spécifique.
Spécifique à la restauration, management de la restauration, management et plein de choses dedans.
Et tu peux donner un exemple de ce que tu as appris via ces cours que tu penses que tu n'aurais pas appris juste sur le terrain?
Ou que tu as appliqué?
Déjà, la logistique, les stocks, le plus important pour un restaurateur, les stocks. Tu ne maîtrises pas ton stock, tu vends beaucoup, par d'ailleurs, on te vole. Ou bien, tant que tu ne sais pas ton stock, tu ne maîtrises pas, tu peux vendre autant que tu veux, mais tu vas te faire, harakiri par ton staff. Donc, ça, c'est le plus important pour maîtriser ses achats et ses stocks. Ensuite, maintenant vient la prise en charge des clients et tout ça. Et comment faire revenir les clients après? Comment faire grossir l'assiette moyenne des clients? C'est-à-dire qu'ils mangent à 1 000 francs, 2 000 francs. Comment faire passer à payer plus à 10 000 francs, des plats de 10 000, de 12 000 et tout ça? Ouais, donc tout ça, c'est...
Bon, marketing, par contre, ça, t'as pas de problème?
Non, marketing, j'ai commencé déjà. Donc, je me suis formé moi-même sur le tas. Oui, mais c'est le prochain cours que je prends d'ailleurs. Okay. Marketing.
Mais est-ce que, tu vois, parce que tu as aussi pas mal... il y a des gens qui ont plusieurs restaurants.
Ouais.
On ne connaît pas forcément les visages derrière. Non. Mine de rien, toi, on connaît ton visage à Abidjan, etc. Est-ce que ça a été quelque chose que tu as pensé, le côté personal branding, ou c'est venu un peu naturellement?
C'est venu naturellement. Et l'année qui est passée, j'ai voulu dissocier mon image du restaurant. J'ai perdu beaucoup d'argent, disons. Parce que oui, j'ai pas beaucoup. Et donc là, je suis en train d'essayer de vraiment me dissocier du restaurant parce que mon image est trop rattachée au restaurant. Mon image est trop forte sur le restaurant. Mais bon, avec les conseils qu'on m'a donné, j'ai commencé à prendre. Là, j'ai commandé des figurines à mon image.
Carrément.
Donc, j'ai cette image dans tous les restaurants où je suis arrêté comme ça avec le burger en main. Mmh. Et donc, ça vient, c'est en train de. Nos boîtes de burgers sont arrivées déjà avec. L'image dessus. Donc, ils m'ont dit non, garde ton image. C'est vrai que tu distances-toi des paroles, des trucs, tout ça. Mm-hmm. Mais garde ton image pour que ça fasse bien, puis qu'on te connaît bien. Voilà.
Mm. Donc, en fait, tu veux dire que tu as remarqué que dès que tu t'éloignais trop, ça affectait un peu tes ventes.
Bien sûr. Bien
sérieux? Parce que tu communiquais moins, c'est ça?
Je communiquais moins et je commençais à passer la main parce que j'étais un peu trop occupé.
Ouais.
Donc, je commençais à passer la main à mes community managers. Mm-hmm. Et je regardais les ventes, je pense que ça baissait légèrement. Donc là, j'ai dû revenir avec eux et rebosser la stratégie, refaire la stratégie. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que si ça continuait comme ça et que je ne pouvais pas être à tous les coins en même temps, je suis à la Riviera, je ne peux pas être à Cocodier, Yopougon et tout ça. Donc ça allait être dangereux pour moi. Donc on a commencé à retravailler la stratégie. Mmh. Voilà. Pour que ça puisse être équilibré partout.
Je veux revenir sur un truc un peu technique peut-être, mais que tu as dit, j'ai travaillé avec les banques, ils m'ont orienté vers l'achat de terrain, j'ai pris les terrains, et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que travailler avec des banques, ce n'était pas si compliqué.
Oui.
Donc je voudrais en fait que tu expliques ça parce que je pense qu'on est nombreux. Moi, j'ai longtemps aussi été dans ce cas. Je pense que c'est par rapport à notre éducation financière. Tu vois, pas de découvert. Si la banque t'appelle, c'est qu'il y a un problème, etc. Et donc, comment est-ce que tu peux dire, tu vois, aux gens qui nous écoutent, non, intéressez-vous à comment fonctionne une banque et vous pouvez aussi en tirer profit.
Oh, mais écoutez, moi, je pense que en toute chose, si, quand tu es entrepreneur, voilà, quand tu es entrepreneur, tu aspires à devenir businessman, tu vois. Parce que pour moi, entrepreneur et businessman, c'est deux choses différentes. Je t'ai invité à un podcast tout dernièrement et j'expliquais là-bas qu'il y a une marque ivoirienne qui est plutôt un business qui n'est pas de l'entrepreneuriat. Et moi, je suis un entrepreneur parce que je commence de A à Z. Et quand quelqu'un vient et qui commence, qui ouvre en même temps un, deux, trois restaurants, il n'attend pas l'argent, le bénéfice d'un restaurant pour pouvoir ouvrir un autre restaurant. Voilà, c'est différent. Ça, c'est un business. On utilise un produit, ça marche, on le duplique. Voilà. L'entrepreneuriat, tu utilises un produit, tu commences à développer un produit, et quand ça marche, tu commences à le dupliquer. Et là, tu vas vers plutôt un business. Pour moi, c'est comme ça. Et donc, une fois que tu commences l'entrepreneuriat, tu aspires à devenir un businessman. Donc, tu ne veux pas continuer d'ouvrir cinq restaurants en fonds propres. Tu dois payer tes employés, tu dois payer les loyers. Il y a toujours des imprévus comme le restaurant qui a été démoli. Donc, tu peux avoir un imprévu et tout ça. Et donc, tu ne peux pas continuer à travailler sur fonds propres. Une fois que tu te prouves, et ça, c'est très important, une fois que tu t'es prouvé que ton business est viable, il ne faut pas commencer à aller prendre un crédit. Une fois que tu t'es prouvé que ton business est viable, est duplicable, et tu le maîtrises de bout en bout, là, tu commences à travailler avec des banques. Comme tu as posé la question qui a suivi, c'est que ils sont venus vers toi quand. C'est que j'ai même pas eu à partir vers les banques. Elles ont commencé à venir vers moi parce
naturellement.
Elles ont vu que non, c'est duplicable. Les employés viennent manger, les patrons viennent manger. Donc voilà. Et ils viennent, ils constatent qu'il y a plusieurs clients qui sont là et
que ça fonctionne.
Et, voilà. Donc déjà, d'eux-mêmes, ils vont venir. Mais c'est quand toi-même tu commences à aller et quand ceux qui m'ont proposé, j'ai dit non, je ne veux pas. Moi, j'ai vu qu'ils avaient deux terrains vers Bassam de 15 millions. Et j'ai dit ok, je vais commencer déjà par un crédit de 30 millions pour voir comment ça se passe. Donc j'ai pris un crédit de 30 millions pour prendre le terrain. Et j'ai vu qu'ils ne m'ont pas emmerdé, c'était flexible et tout ça. Ça n'a pas été compliqué pour gérer. Donc, je lui ai dit, OK. Donc, on peut aller sur d'autres marchés, mais sur d'autres produits. Et donc, voilà. Et donc, mais après, moi, je pense qu'il y a un certain montant aujourd'hui, pour moi, qui n'est pas profitable, en fait. Tu vois, tu peux aller prendre un crédit et puis après, tu cherches encore un autre... une somme d'argent pour venir compléter pour pouvoir faire le projet que tu veux pendant que tu dois on va commencer à te couper pour rembourser non si tu as besoin d'une somme d'argent pour aller faire si la banque après t'accompagner entièrement tu vas si elle n'est pas pour t'accompagner entièrement ne va pas prendre un peu J'allais chercher un peu à côté.
Ouais, est-ce que font des
pendant le temps que tu m'as cherché là, le mois qui suit, ils doivent prendre l'argent, ils doivent prendre le bénéfice. Donc, il faut savoir bien discuter avec les banques. Voilà, il faut savoir pourquoi est-ce que tu vas à la banque d'abord.
Il faut que
ça te soit profitable et sans stress, c'est surtout ça. Parce que en tant qu'entrepreneur ivoirien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois beaucoup d'entrepreneurs pleurer.
Ouais.
Beaucoup d'entrepreneurs pleurent. Aujourd'hui, il va passer à la télévision, il va dire non, mon business marche à 100%. Alors qu'il a un mois de se faire vider de sa maison, il a un mois de tout perdre. Et donc voilà, donc il faut vraiment être profitable.
Ouais, voilà. Faut que t'as un truc que toi-même tu saches que.
La vie d'Instagram,
tu regardes les chiffres, tu sais dire que ça fait de l'argent.
Ouais.
Et de façon durable, parce qu'une question que aussi beaucoup d'entrepreneurs se posent, et je ne sais pas quel est ton retour dessus, beaucoup de gens se disent il faut que je cherche le financement pour pouvoir me lancer. Okay. Alors que toi, t'es le parfait exemple. Avant ton premier financement, c'est d'abord t'as vendu.
Ouais.
Tu as commencé petit, et c'est un peu ce qu'aussi disait Jenny. C'est que beaucoup d'entrepreneurs africains, je ne sais pas d'où est venue cette rumeur, mais beaucoup d'entre eux pensent que la première étape d'un business, c'est de se faire financer.
Mais vous savez, les réseaux sociaux influencent, comme on l'a dit tout à l'heure, Instagram et Facebook. Et ils se donnent des conseils qu'ils ne maîtrisent pas.
Exactement.
Quand tu dis que je dis, oh, menteur, là. Et y a des gens, là, je vois des images de certains abonnés qui disent, moi, je suis parti de rien, et tout le monde a donné rire. Pendant qu'il y a des gens qui sont partis vraiment de rien.
Exactement.
Voilà. Et donc, on peut partir de rien. Il faut avoir l'idée. À l'idée, il faut associer la vision. Et il faut mettre un plan. Et c'est le plus important. Plus important même que l'argent. Tu parles bien d'argent. Parce que la finalité, c'est... À la fin de la journée, on va vous demander... Lui, il avait l'argent, il a commencé. Toi, tu n'avais pas l'argent, tu as commencé. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que lui, il a réussi? Parce que lui, pas l'argent, il n'est pas réussi.
Ouais.
Et toi, tu peux ne pas avoir l'argent et réussir. Donc, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est le résultat. Moi, c'est ce qui compte pour moi. Le résultat. Est-ce que tu y es arrivé ou pas? Parce que Dieu te donne, ton don. Tu découvres ton don. Tu es venu sur la terre avec un don. Tu l'as découvert. Mais le montrer au monde, c'est ta responsabilité. Que tu aies l'argent ou pas, que tes parents aient l'argent ou pas. Tu es le seul responsable de ce que tu vas faire avec ce don.
Exact.
Donc, soit tu le fais réussi, c'est ta responsabilité. Soit tu ne le fais pas réussi, c'est ta responsabilité. En tout compte fait, tu es comptable du résultat que tu produis. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a pleuré pour toi, en fait. Tu peux échouer si tu veux.
Et ce n'est pas le financement qui va te sauver.
Non, ce n'est pas le financement. C'est ta détermination. Parce qu'on te donne un financement, même tu vas encore avoir plus de problèmes.
Ouais.
On te donne un financement, ton produit, tu n'arrives pas à le vendre.
Amen.
Tu n'arrives pas à le montrer, à l'exposer au monde. Tu n'as pas de clients. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu l'argent de la banque. Mais l'argent de la banque, tu vas rembourser.
C'est ça.
c'est pas l'argent de tes parents. L'argent de la banque, tu vas le rembourser.
Même l'argent de tes parents, je trouve que c'est très grave de le perdre. Parce qu'il faut que les gens se rendent compte que... Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que vraiment, pour moi, tu as vraiment montré... Tu es l'illustration parfaite de quelqu'un qui a été constant dans la durée. C'est-à-dire que tu as commencé, comme tu dis, tu as fait 2 ans sur... ton fourneau. Les gens, je pense pas que quelqu'un imagine aujourd'hui, tu as tes 5 restaurants. Les gens, s'ils te voient aujourd'hui, ils vont croire, ils vont se dire, ah, il faut que je me fasse financer pour faire 5 restaurants. Alors que non, en fait, tu as fait 2 ans sur tes fourneaux. Ensuite, ton 2e restaurant a été cassé. Tu es encore... tu as encore continué.
Tu es revenu
à
encore. Voilà.
Et chaque année, tu en as ouvert un. Donc, je pense que vraiment, moi, pour le coup, je trouve qu'il est... Ton parcours est vraiment admirable aussi pour ça, parce que je trouve que malheureusement, trop souvent, les gens prennent des conseils de gens qui n'ont pas la même vie qu'eux.
Bien sûr.
Et ils ne
tout
mettent
le temps.
Tout le temps.
Yeah.
On n'a pas les mêmes problèmes.
Ah oui, tout le temps.
Et malheureusement, il n'y a pas assez de fois où des gens comme toi ont l'espace pour pouvoir expliquer tout ça aux gens.
Ouais, c'est la cause de tout le stress qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, toutes les dépressions, parce qu'ils prennent de faux conseils.
Ouais.
Ils sont accrochés à ces conseils-là. Et quand tu leur parles, ils ne veulent pas écouter. Mais ils font comme si tu écoutes. Quand tu dis que tu n'as pas besoin d'argent, il faut vraiment développer ton idée chez toi, à la maison et tout ça. Commence, mets-toi à l'eau.
Exactement.
Commence. Pas. Ils veulent l'argent forcément. Mais moi, il y a plusieurs entrepreneurs à qui j'ai donné de l'argent. Aujourd'hui, ils n'ont rien fait de cet argent. Hein.
Sérieux?
Oui. Oh,
ma chère, faut mes yeux.
Toi, tu as fait quoi?
Laisse
là-bas.
C'est toi qui donne le gombo.
C'est ça, gombo. Non, mais c'est un peu ce que tu dis. Tu as donné de l'argent à des entrepreneurs et ce n'est pas ceux qui ont réussi. Ceux qui réussissent souvent, tu les as vus. Ils t'ont pas demandé de l'argent.
Non, moi, je le dis à mes employés. Je dis, vous voyez que je vous parle parce que moi, souvent, je suis appelé à parler dans des gens ou bien dans des podcasts ou bien dans des séminaires et tout, conférences. Et eux, je parle gratuitement. Mais je dis que c'est vrai que même pendant que je vous parle, il est établi que peut-être sur 10 personnes, il y a 2 qui réussissent, il y a 2 qui écoutent. Donc,
c'est clair.
Bon, je vous parle. Ce que je dois faire, c'est instiller, bien quand on dit en français, mais mettre ça dans votre tête. Que vous pouvez devenir autre chose, vous pouvez faire, je sème, mais voilà, mais c'est à vous de savoir que c'est possible dans la vie, c'est possible.
Et donc, sur les gens là, qui suivent, là, les 20 000 personnes, là, ça veut dire qu'il y en a combien?
Il y en a 15
d'entre vous qui vont écouter, qui vont vraiment écouter.
Très peu vont écouter. Et le point, c'est, du coup, je te demanderais aussi, est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un qui commence, moi, souvent, ce qu'on donne comme conseil avec Kaï, c'est si tu peux, essaie de bosser avec quelqu'un dans le domaine au lieu de vouloir commencer tout seul.
Ok.
Par exemple, ce que tu viens de décrire, quelqu'un qui bosserait pour toi, je pense, gagnerait énormément en expérience avant de vouloir lui-même se jeter. Toi, tu n'as pas eu cette chance.
Non.
Je pense. Mais aujourd'hui, si tu recommanderais à quelqu'un, est-ce que tu penses que ça ferait du sens, quelqu'un d'abord commence à bosser avec des gens comme toi qui ont déjà fait?
Oui, c'est normal. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de tact, au fait. Ils viennent, non, je veux juste venir apprendre. Ou bien, je veux venir apprendre comment tu fais. Non. Tu cherches du travail, tu viens. Tu commences par la plus petite porte. Et une fois que je vois que tu es quelqu'un de confiance, je commence à t'apprendre des choses. Je ne t'apprends pas des choses parce que
tu as demandé.
Non, tu vas prendre du temps. Tu vas prendre du temps.
Voilà. Et ça a mis du temps. Là, aujourd'hui, ça fait combien de temps depuis que tu as commencé, depuis ce premier burger?
Depuis 2015-2014, je suis aujourd'hui à
10 ans.
Près de 8 ans.
Donc il faut que les gens se rendent compte. Ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est 8 ans de travail.
Voilà, tu parles beaucoup de la formation de tes employés. Parce que même tout à l'heure, tu disais, vu le temps que j'ai mis pour les former, je ne veux pas qu'ils partent comme ça. C'est vraiment un truc où tu t'es posé, tu t'es dit, il faut absolument que je trouve la méthode pour les...
Non, moi, je ne les garde pas, en fait. Moi, je les parle. Quand je dis pas de la formation, moi, je les montre comme on braise. Moi, j'ai ma sauce, vous comprenez? J'ai ma sauce secrète et que je connais. À part ça, les techniques de braise, je les apprends. Il faut pas qu'ils partent être des copies de moi parce que ça va être compliqué pour eux aussi. Et donc, moi, je vous montre ce que vous devez savoir. Quand vous prenez, vous ajoutez vos propres sauces, vos propres assaisonnements. Si vous voulez jamais ouvrir un restaurant, si vous ne voulez pas ouvrir autre chose, mais vous regardez mon développement, comment est-ce que je me développe en entrepreneuriat, que je sois un exemple pour vous, pour pouvoir le faire de la même manière. Moi, je prends des gens pour venir, des personal branding pour venir leur donner des cours et tout ça. Si jamais ils ont des projets, ils peuvent le développer. Moi, je les fais partir à Sini avec des team building et tout. Je suis vraiment... Je crois que moi, l'une des rares entreprises ivoiriennes, donc jeune entrepreneur ivoirien qui offre des team building à ses employés. Voilà, donc si pour tout dernièrement, je les ai mis en concours et la meilleure équipe devait gagner 2 millions. Mais après, l'équipe d'arrivée a gagné 2 millions, mais après, quand même, on a donné 1 million à chaque restaurant. Voilà. Et là, avant-hier, j'ai fait
des concours.
Avant-hier, j'ai fait un direct où je leur disais que je vais commencer à investir. Dans cette année, on va se concentrer vraiment sur les employés. Leur donner des motos, je prends 10 motos de livraison. Ils vont voir, vraiment, ils sont salariés, mais ils vont voir ce que c'est que de gérer un entrepreneuriat.
Ils seront responsables du service livraison.
Ils vont s'inscrire peut-être à Yango, mais ils vont s'inscrire où ils veulent.
Ouais.
Et ils vont avoir à gérer pour eux tous eux-mêmes. Ces motos-là, les biens que ça va créer. Et si une moto en panne, si une moto se perd, si ça a bien donné aujourd'hui, ils vont voir ce que c'est. Parce que l'entrepreneuriat, il y a les hauts et les bas. Les gens pensent que c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent te voir et te demander de l'argent parce qu'ils pensent que dans ta vie, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai dit que c'est toujours en haut et en bas. Et c'est dans les moments où tu es en bas que la croissance commence, que la formation commence. Parce que c'est là que tu dois montrer que tu es courageux.
Exact.
Que tu es courageux quand tu es en bas. C'est pas quand tu es en haut, ça, tu as tout. Tes enfants vont à l'école, ils sont les premiers. Ouais. Tu peux payer ton loyer. Tu peux payer. Là, c'est facile d'avoir la foi en Dieu. C'est facile d'avoir la foi. Mais quand tu es à terre, quand la vie te met KO, voilà quoi. Quand tu es seul face à tout, quand tu es en train de perdre même ton entreprise, C'est là que tu dois montrer que tu as la foi. Et, wow. Là, c'est compliqué. Donc, quand tu les mets en situation, parce que nos parents ne nous ont pas appris ça. Nos parents nous ont cajolés. Voilà, ils ne nous ont pas appris, parce qu'après, nous on était destinés à soit être médecin, à soit être bureaucrate, au fait. Ouais. Donc, moi, peut-être dans ma famille, je suis seul à être entrepreneur. Sur les 14 enfants. Voilà. Et donc, je vois que mes employés ont besoin de ça. Ils ont besoin parce qu'ils sont tous à peu près des mêmes milieux. Ouais. Donc, les parents n'ont pas été entrepreneurs, donc ils ne nous ont pas montré comment être entrepreneur. Donc, je leur ai dit, écoute, assis des motos, vous allez apprendre à gérer, vous allez apprendre à perdre, à gagner, à vous partager, à vous serrer les coudes. Vous allez apprendre à être des entrepreneurs.
Voilà. C'est intéressant, tu vois. Même au-delà d'entrepreneurs, ce que tu décris là, tu vois, toi, tu le dis. Et quelqu'un qui a dit la même chose que toi, c'est le CEO de NVIDIA. Tu vois, la boîte qui fait les puces pour l'IA, qui vient de passer $1 trillion de value. Il a dit quelque chose la semaine dernière, qui est exactement ce que tu viens de dire. Il a dit, ce qui souhaite aux gens pour qu'ils puissent développer de la résilience, c'est la souffrance. Qu'en fait, ce qui souhaite aux gens pour leur croissance, c'est la souffrance. Parce que ce n'est pas dans le confort. Ce n'est pas dans l'aise qu'ils vont au truc. Ce n'est absolument pas ça. Et lui, il dit que, comme toi, il a dit la même chose, il dit que ce qu'il regrette, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des fois, à qui, même à ses employés, ils souhaitent de la souffrance. Il dit parce que si tu ne souffres pas, tu n'évolues pas.
Jamais rien du tout.
Il n'y a rien qui se passe quand tu es confortable. Au pire, tu décrois. Et c'est ce qu'il décrivait en disant que oui, que lui, ce qu'il souhaite aux gens, aux jeunes, c'est la souffrance. Donc, ce que tu décris, si tu vois, genre, t'as le même constat que... Alors, lui, il est d'origine asiatique, il est aux États-Unis, il a une boîte qui fait $1 trillion. Wow. Mais même constat que toi.
Et j'ai une question sur... est-ce que tu penses souvent aujourd'hui à l'époque où tu étais un peu perdu à Koweït, etc. Tu penses souvent
Si, beaucoup.
Ça te revient.
Ça me rend vraiment...
Et tu te dis quoi? Tu te dis, j'aurais pas pu imaginer...
De là, en fait, la première fois que je suis sorti de là-bas, mes parents étaient là.
Oui, moi je parle la deuxième fois.
Ça, quand je me dis, quand je compare, la deuxième fois que je suis sorti, c'était pas vraiment évident que je puisse ressortir de là-bas. Et donc là, ça me rend vraiment fier de la manière que je suis ressorti et que où je suis arrivé. Je suis plutôt rentable. Là, je vais commencer peut-être à m'occuper peut-être de ma famille, de mes frères, parce que là, je suis rentable. Parce qu'il y a un moment où peut-être qu'on ne se parlait pas parce qu'ils ne me comprenaient pas. Parce que tu ne peux pas être... En Afrique, on a dit, tu perds un moyen et puis enlever un moyen. Je vois des gens, quand ils commencent à faire un peu d'argent, leurs familles sont là, dorment un peu. Donc,
ça te ralentit.
Il dilapide les ressources qu'il doit prendre pour grandir, pour croître. Il donne un peu ici, il donne un peu... Il n'est pas...
C'est pas possible.
Difficile de dire non.
Oh oui, c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non. Voilà, c'est comme je dis, c'est difficile de dire non. Mais à un moment donné, tu dois choisir. Est-ce que tu veux être profitable pour tes parents tout le temps? Ou bien est-ce que tu veux être un peu profitable et puis à un moment donné tomber? Parce que tu risques de tomber. À un moment donné, tu risques de tomber. Quand tu es obligé de donner à chaque fois, toi tu as 100 000 aujourd'hui, tu donnes 50 000, tu donnes 25 000. Pendant que tu dois prendre pour grandir, pour croître, tu partages ça déjà. Tu partages, mais à un moment donné, non. Ok, à un moment donné, quand moi, aujourd'hui, cette année, j'ai fait partie, mes deux petits frères en mission en Turquie. J'ai fait partie, l'autre en Amérique. Je suis parti avec ma petite soeur.
Tu viens en mission?
Oui, en mission pour Texas Grill. Alors que moi, je parte, là, si le gouvernement me dit, tu vas ici, on fait les visas. C'est que Texas Grill maintenant peut faire des visas. Pendant qu'on ne pouvait pas, c'est quelle entreprise Texas Grill? Mais aujourd'hui, on me fait des visas.
L'ambassade. Ils travaillent avec toi, certains de tes.
Oui, ils travaillent, mais j'ai pris deux de mes petits frères qui travaillent directement avec moi. Voilà, donc je forme aussi. Comme j'ai fait mes cours en stock et achat, donc j'ai mis stock, achat. Donc c'est eux qui gèrent ces deux volets-là.
Plus ta fille qui est dedans.
Oui.
C'est une dynastie.
Ma fille, elle, c'est les sauces pour le moment. elle a la chambre du commerce, mais vraiment axé sur les sauces, sur les assaisonnements. Je pense que c'est mon point fort.
Clé. Ouais, c'est voilà.
Moi, j'ai tout montré à mes employés. Donc, ce que je garde pour moi, c'est vraiment mes assaisonnements. Donc, ça, je passe à mes enfants. À eux de découvrir aussi leurs assaisonnements, parce que je leur ai montré comment on braise, je leur ai montré tout ce qu'ils doivent savoir. Voilà.
Juste une dernière question avant qu'on te libère. Parce que c'est vrai que tu es quand même aussi dans une situation où, qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs dans la restauration qui hésitent à bosser avec Glovo et Yango, par exemple? Parce que toi, c'est quoi ton retour un peu sur ça? Parce que c'est vrai que c'est un, que beaucoup de gens se posent.
Et la livraison en général.
La livraison en général, parce que c'est quelque chose qui, je pense, dans la restauration aujourd'hui,
prend
la place.
Je pense qu'au début, ils étaient vraiment rigides.
Ouais.
Et donc, vous allez voir qu'il y avait vraiment des restaurants libanais sur Glovo et Yango. Mm-hmm. C'était la plupart ça. Mm-hmm. Et ils ont dû avoir des réformes au sein de leur tête, de l'administration. Ils ont commencé maintenant à comprendre ce qu'on disait. Parce que quand ils viennent qu'ils te disent 30%, ils prennent 30% du plat. Mm-hmm. Mais écoutez, 30%, ça peut être le bénéfice.
Ton bénéfice, c'est ta marge.
Voilà, dans 30%, toi, tu vas payer ton courant, ton eau. Ils vont te dire non, c'est pas tes clients, c'est des nouveaux clients. Comment tu sais que c'est des nouveaux clients? Moi, mes clients, s'ils veulent s'asseoir à la maison
et livrer.
Être livrés. Et donc, là, au moment où je suis arrivé à 5 restaurants, moi, maintenant, je peux tenir tête. Quand ils sont revenus, je peux discuter de mon pourcentage.
Bien sûr.
Je ne suis pas d'accord, je veux tel pourcent. Si vous ne voulez pas, je ne veux pas. Et donc voilà, donc là maintenant tu as, il y a un rapport de force, mais pour les nouveaux, ça va vraiment tourner autour de 30%, 25% et tout ça, parce que là ils se font le gros marge là-bas.
Et tu recommanderais que les gens le fassent quand même ou qu'ils fassent leur propre livraison eux-mêmes? Comment tu dis donc,
moi je recommande qu'ils fassent eux-mêmes leur propre livraison, mais avec tout, parce que moi j'ai commencé par mes propres livraisons, j'avais 5 motos, on m'a braqué les 5 motos.
Braqué les 5 motos.
Oui, ça c'est à la mode d'Abidjan.
Seigneur,
voilà. Donc on m'a braqué les 5 motos, j'ai arrêté. Donc quand quelqu'un appelle, on a dit on n'a pas de moto, il dit, c'est plein. Non, vous voulez pas livrer. Mais on m'a braqué 5 motos. J'ai jamais retrouvé une moto, braqué toutes les plaintes qu'on a postées. Donc j'ai racheté une dernière moto. Donc le gars qui est là, tu fais pas de livraison, tu fais juste tes courses, aller payer les trucs, tu reviens déposer la moto. Donc là, je suis reparti avec Yango et avec Glovo. Et donc j'ai de meilleurs pourcentages avec eux. Et donc je pense que si vous les nouveaux entrepreneurs ou bien les entrepreneurs comme moi gagneraient à mieux discuter leur pourcentage. Si c'est ça, au fait. Tu peux dire non, mais faire moins de ventes. Moi, chaque semaine, quand ils me déposent mes sous, je vois que quand même, il y a des marges dedans.
Il y a des marges dedans. Si jamais tu augmentes aussi tes prix, mais il faut que ça puisse absorber.
Non, il n'y a pas besoin d'augmenter mes prix.
Ouais.
Mais tu as des marges. Plus que tu discutes, parce que c'est ça. Tu augmentes tes prix, tu as fait fuir tes clients.
Exactement.
Donc, tu discutes de tes pourcentages avec eux. Mmh. Donc, écoutez les gars, moi, je suis prêt à vous laisser 15%, je suis prêt à vous laisser, au lieu de 30%, je suis prêt à vous laisser 20%, je suis prêt à vous laisser tel de pourcentage. Bien entendu, il faut que je reste rentable. Si je ne suis pas rentable, vous ne livrez pas. Mais quand je vois que ce n'est pas rentable, je dis à mes gars, fermez la tablette, je n'ai pas besoin de vendre avec eux aujourd'hui. Voilà, donc, fermez la tablette. Oui, c'est comme ça. Donc, moi, je n'ai pas de demi-mesure. Si le client veut manger, je pense qu'on fait tout pour qu'il puisse venir manger. Qu'il vient manger sur place, mais il vient prendre sa nourriture pour partir. Parce que le client, il ne va pas accepter de manger et que nous, on ferme après derrière lui. Donc, je pense que s'ils ont décidé de nous aider, ils nous aident jusqu'à la fin. C'est comme ça. Donc, Yango et Glovo, vous discutez de vos pourcentages avec eux. Quand vous êtes bien d'accord, vous faites vos calculs. Un entrepreneur, c'est aussi des chiffres. Donc
beaucoup de chiffres.
Ne regardez pas juste les productions. Vos chiffres, c'est le plus important.
Cool.
Donc, quand tu finis avec tes chiffres, tu sais que je peux donner tel nombre de pourcents et toujours être rentable. Si ce n'est pas le cas, à l'impossible, nul n'est tenu en tout cas.
Amen. Mais écoute, juste pour conclure sur les chiffres, quel chiffre toi tu peux donner du coup sur Texas Grill aujourd'hui? C'est combien de restaurants, combien d'employés,
Nous sommes couverts, comme on dit.
Nous sommes autour de 300 employés.
Waouh!
Ouais.
Tchao! Ça, c'est courageux, hein, putain. Moi, j'ai déjà avec 30-40, nous, on souffre là, 300.
Oui, c'est ça a été une des causes pour lesquelles je suis allé prendre mes cours, parce que 20 employés, 30 employés, 40 employés, tu as encore des gens de confiance dedans, il y a des gens que tu connais bien. Mais à partir des 100, tu ne connais plus personne. Voilà. À partir des 100, tu connais ceux qui sont peut-être dans ton cercle, mais tu ne connais plus. Donc, il n'y a plus de confiance à avoir. Il n'y a plus de... Non, il y a maintenant à avoir des process.
Process.
Voilà. Mettre des process parce que tu ne connais plus personne. Donc, 20, 30... Mais moi, quand même, je peux dire le nom de chacun de mes employés actuellement.
Combien de clients par soir?
Beaucoup.
Là, ça commence à montrer un truc qui l'échauffe beaucoup.
On n'a même pas dit montant.
Beaucoup.
Beaucoup
de clients.
Beaucoup de clients. Les gens n'ont qu'à venir au resto, s'asseoir eux-mêmes, manger et puis compter. Non, mais écoute, super intéressant. Et merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous.
Merci beaucoup.
Oublie le rituel.
Ah oui, il y a double rituel, normalement.
Je m'en souviens que...
Le premier rituel, c'est qui est la personne la plus connue qui est dans ton téléphone, dont tu as le numéro?
je sais pas, un ministre ou un artiste.
Ah, artiste. Mais quel artiste? Nous, c'est ça qui nous intéresse. Qui est la personne la plus connue dans son téléphone? Nous, moi, j'avais dit que c'était Youssoupha à l'époque. Mais c'est pas comme si je lui écris tous les jours. Je mets son numéro, c'est ce que je peux dire.
Toi, c'est qui?
Moi, je peux avoir le numéro de plusieurs artistes. Hein. Il y a plusieurs, je pense. Il y a qui? Il y a Didi.
Didi B. Represent.
Suspect. Il y a Enis Zounon, il y a Ibi Dero.
Ah ouais. Tout ça, ils mangent chez toi ou bien? Tout ça, c'est des bons clients.
Il y a des ministres, certains ministres. Voilà.
Non, mais c'est bien.
Le showbiz est là.
Le showbiz est là. Bon, comme on dit, tout le monde mange Texas Grill, il n'y a pas le choix.
Ouais.
Et vas-y pour la deuxième tradition.
Non, c'est du coup. Celui-là dont je me souviens.
Ah, ben l'autre tradition, c'est du coup, on essaye, pour les gens qui ont écouté jusqu'à la fin, ils doivent montrer qu'ils sont présents en faisant une phrase ou un commentaire long en utilisant un mot que tu choisis qui résume notre discussion. Donc il faut te donner quel mot ils doivent utiliser pour laisser un commentaire pour prouver qu'ils étaient jusqu'à la fin.
Ok, ça va être la résilience.
Résilience.
Yeah.
Toujours.
Résilience. Amen.
Résilience ou constance. Voilà, surtout la constance.
Tu peux pas ça, nous laisser fort sans me faire un petit King Wax.
Yeah.
King Maxwell.
Yo, baby, what's up, King Maxwell.
Voilà. Merci à tous.
Merci.
Si vous avez aimé, c'est le moment de vous abonner. Hein.
Tout ce monde se passer comme ça. Là. C'est gratuit.
Parce que c'est que comme ça qu'on peut avoir des invités de qualité comme Axe.
Bah ouais.
Donc, merci à vous.
Donc, abonnez-vous.
Abonnez-vous, merci.
Voilà, c'est tout. Merci. Et abonnez-vous aussi.
Voilà. Texas Grill, c'est à Abidjan.
Ouais.
Allez, c'est incroyable.
Merci beaucoup.
Super parcours, super partage. Franchement, je pense qu'on va avoir des commentaires. Tu verras. Il faudra que tu viennes répondre là.
C'est ça.
Ah ouais.
Avec plaisir.
À ciao.
À ciao.
Ciao.